Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes un vendredi 13. Nous sommes un vendredi 13, il est midi 56 et nous venons d'apprendre il y a quelques minutes la nomination de François Bayrou, Premier ministre. Eh bien, ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre pour la nomination de François Bayrou. Et je dis ça d'abord pour lui. François Bayrou aura attendu 30 ans. 30 ans avant d'avoir le pouvoir. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Non, il y a de la persévérance, il y a de la persévérance. Avoir le pouvoir, et quel pouvoir, mes amis. un petit jeune à Matignon. Mais oui, non, mais c'est très bien, ça fait du renouveau, c'est agréable. François Bayrou est donc nommé Premier ministre pour une durée indéterminée. Parce que bon courage, mon Bayrou. Hein. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais y a peut-être des gens dans le chat en fait qui savent pas qui c'est François Bayrou, qui ont une idée un peu floue de qui est le bonhomme. François Bayrou est un personnage important de la vie politique française depuis 30 ans, clairement. Il a une position importante. François Bayrou est l'homme du centre, et plus particulièrement l'homme du centre indépendant. C'est ce que j'expliquais en stream il y a quelques jours, mais je vais vous le redire. Il a existé en France un grand parti centriste, de centre-droit, non gaulliste, qui s'appelait l'UDF, qui était héritier, qui a été créé d'ailleurs pendant la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est un peu les héritiers du giscardisme, l'UDF. Donc c'était des gens qui étaient démocrates, chrétiens, libéraux, europhile, très clairement europhile, et qui avait des relations plus ou moins houleuses avec le parti gaulliste. Et l'UDF, l'Union pour la démocratie française, donc ce parti de centre historique, a fait alliance avec la droite, avec le RPR, dans les années 90, et ça a duré plusieurs années, jusqu'à ce qu'un François Bayrou prenne la tête de l'UDF dans les années 90, fin années 90, et François Bayrou, il va marquer un changement. Une rupture dans l'historique de ce parti, c'est qu'il va se dissocier de la droite. Il y a chez François Bayrou une volonté farouche de rompre avec la tradition française qui est que le centre travaille avec la droite. Ça ne veut pas dire que François Bayrou veut travailler avec la gauche pour autant, non. François Bayrou, ce qu'il va commencer à défendre comme position, c'est un centre indépendant, hop, qui refuse l'automaticité de l'alliance. Et c'est comme ça que qu'en 2007, François Bayrou va faire quelque chose de rare. C'est qu'au second tour de l'élection présidentielle, il va refuser d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy. Non, désolé, c'est non. Bayrou n'aime pas Sarkozy. Bayrou n'est pas dans la droite ligne de la droite décomplexée de Nicolas Sarkozy, de cette droite-là, pardon, particulièrement brutale, vantarde. Allante, réformatrice, etc. Non, François Bayrou, c'est pas sa cam, et François Bayrou déteste Nicolas Sarkozy, et il aime pas la droite décomplexée. Il va pas pour autant appeler à voter pour Ségolène Royal, il va dire, à titre personnel, je ne voterai pas pour Nicolas Sarkozy. Voilà, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, il a voté Ségolène Royal au second tour, le père François Bayrou. Donc c'est ça, l'identité politique de François Bayrou, c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est l'indépendance du centre. Le refus d'un centre qui est la béquille de la droite. Et François Bayrou va parvenir à son souhait en acceptant de ne pas être lui-même le porte-étendard de ce centre-là. Puisqu'en 2017, François Bayrou va se ranger derrière le jeune Emmanuel Macron, en se rendant compte qu'Emmanuel Macron défend sensiblement la même idée, avec le projet du dépassement, etc. Et les idées de François Bayrou vont triompher, au moment où François Bayrou va se retirer. Voilà, c'est ça le paradoxe de François Bayrou. Et qui fait que, 7 ans plus tard, aujourd'hui, il arrive à Matignon, dans un contexte politique extrêmement difficile pour lui. C'est ce que je disais hier sur le plateau de Backseat, c'est que François Bayrou, les Républicains ne peuvent pas l'encadrer, Marine Le Pen ne peut pas l'encadrer, même s'il avait apporté son parrainage républicain à Marine Le Pen en 2022, ce qui avait surpris quand même pas mal de monde. Et la gauche peut pas l'encadrer non plus. Je veux dire, François Bayrou, c'est l'homme de la continuité. Alors là, franchement, ce que je viens de vous dire, tous les gens de gauche le savent très bien. François Bayrou, c'est Macron. Bon, peuvent toujours s'engueuler. Alors, ils ont eu des relations tumultueuses, plus ou moins sympathiques, etc. Mais ça change rien sur le fait que le fond de la politique menée est clairement proche de celle d'Emmanuel Macron. Allez, allez, je vais tenter une diphtongue. Je vais tenter une diphtongue en disant que peut-être que François Bayrou est un petit peu plus apte au dialogue social qu'Emmanuel Macron, qui lui n'en a jamais rien eu à foutre. Peut-être que le côté démocratie chrétienne reprend le dessus et que François Bayrou il fait confiance aux partenaires sociaux en disant allez-y, trouvez des accords, etc. On verra. On verra. Je capte pas, Macron l'appelle en disant pas toi et 10 minutes après, ok, c'est toi. Alors, il est possible. Alors, effectivement, il y a une information qui est sortie au cours de la matinée disant que selon une source, Emmanuel Macron aurait téléphoné à 8h30 à François Bayrou pour lui dire que ce serait pas lui le Premier ministre. C'est peut-être faux, tout simplement. Je sais pas qui c'est la source, mais ça se trouve, c'est pas vrai. J'en sais rien. D'une part, et d'autre part, c'est possible que effectivement cet appel ait eu lieu. Peut-être qu'Emmanuel Macron a téléphoné à François Bayrou pour lui dire désolé, ce sera pas toi, de manière à obtenir de François Bayrou qu'il cède dans les négociations sur un truc ou deux. C'est du rapport de force. Jusqu'à la dernière minute, tu peux faire croire que tu signeras pas le contrat, hein. Ça te permet de négocier le prix. Ben voilà, pareil. Ou alors Macron a cédé. Ou alors Macron a cédé, tu as raison, l'autre est possible aussi. L'autre est possible aussi, peut-être que François Bayrou a dit à Emmanuel Macron, si tu ne me nommes pas Premier ministre, je quitte officiellement la coalition macroniste. Le MoDem se barre, caca nerveux, tout ça, tout ça. C'est possible, c'est possible. Est-ce qu'il y a déjà des censures annoncées? Bon, on n'a pas encore la composition du gouvernement, ni la feuille de route hein, du gouvernement. On se doute que ça ne va pas être de la rupture, hein, avec le profil de François Bayrou à Matignon. Pour autant, on a appris que Jordan Bardella a déclaré qu'il n'y aurait pas de censure a priori, ce qui n'est pas surprenant. Ça reste la position du RN à chaque fois qu'un nouveau Premier ministre est nommé. Ils disent bah, nous, on attend de voir avant de censurer. Ce qui n'est pas la même stratégie de la France Insoumise qui, elle, censure dès le premier jour, avant même le discours de politique générale. Donc, oui, la France Insoumise va censurer, c'est pas une surprise. On verra. On verra, peut-être que la proposition faite par le NFP de retirer le 49-3 de la table va être saisie par François Bayrou. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça avait l'air de vous plaire hier quand Marine Tondelier disait on retire le 49-3 de la table et on laisse le Parlement travailler. Si ça se trouve, Bayrou, c'est ce qu'il va faire. Moi, j'y crois pas. Enfin, je vous ai toujours dit que j'y croyais pas à ces histoires-là. Tu peux toujours jurer la vie de ta mère que tu n'utiliseras pas le 49-3, ça veut pas dire que tu l'utiliseras pas. Bayrou a-t-il l'étoffe d'un Premier ministre? Tu sais, j'ai envie de te dire au point où elle est, l'étoffe. Je veux dire, voilà. On a eu Gabriel Attal, on a eu Elisabeth Borne, on a eu Jean Castex, on a eu Michel Barnier. Ça va, on n'est plus dans les années 60. Il n'y a plus d'étoffe. Non, mais tant mieux d'ailleurs. Non, mais heureusement. Enfin, en plus, pardon, mais enfin, c'est bon, là, ça va. Vous n'en avez pas marre, vous, des vieux hommes blancs? Enfin, on peut pas se dire qu'une Lucie Castel, elle a l'étoffe. Un jeune, il a l'étoffe. Enfin, je sais pas, il y a un moment, ça va, quoi. Il y en a marre des étoffes. C'est pareil à chaque fois avec le président de la République. Est-ce qu'elle a l'étoffe d'une présidente de la République? Mais ta gueule, enfin, juste. Est-ce qu'on s'en branle? Enfin, vraiment. Il faut un minimum de charisme quand même. Très bien. Bah, définis ce que toi tu entends par charisme. Si t'as pas l'étoffe, change de tailleur, exactement. Tu crois que Bayrou, Premier ministre, c'est un move pour porter un grand projet de consultation réforme constitutionnelle et faire gagner du temps à Macron? Écoute, j'en sais rien, la question que tu poses, elle est bonne. Enfin, attendons de voir ce que dit François Bayrou. Si ça se trouve, la rupture n'est pas dans le personnage, mais dans la pratique, tu vois, on verra. Si François Bayrou, il fait un discours là, aux 20h de TF1 ce soir, en disant aux Français, je lance un processus d'assemblée constituante de manière à changer nos institutions et retrouver le chemin de la démocratie, je n'utiliserai pas le 49-3, je laisserai le gouvernement, le Parlement travailler, bah, on peut être surpris. J'y crois pas des masses, mais on peut être surpris. Est-ce que tu croyais à Bayrou Premier ministre? Bah oui, compte tenu des noms qui ont circulé toute la semaine, oui, évidemment. Moi, François Bayrou faisait partie des gens à qui je pensais. Je pensais à Bernard Cazeneuve aussi. Je pensais à Roland Lescure. Voilà. Thierry Baudet, j'ai compris que c'était mort. Donc non. Donc oui, non, c'est pas une surprise la nomination de François Bayrou Premier ministre. La question est toujours la même, chers amis. Est-ce qu'il a les moyens politiques de faire quoi que ce soit? Est-ce qu'on peut dire que Bayrou, c'est le dernier fusible macroniste avant la démission de Macron lui-même? Non. On peut l'espérer, mais ça, on s'en branle. Enfin, la foi n'a rien à faire là-dedans. Emmanuel Macron a écarté la possibilité d'une démission. Alors, je suis le premier à dire que ça ne veut pas dire qu'il démissionnera pas, hein. Comme d'hab. Mais non, 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 il a peut-être d'autres cartouches derrière, hein. Ça va commencer à devenir compliqué, je veux dire. Si François Bayrou est renversé par une motion de censure, ça va vraiment être compliqué. Quels sont les grands chevaux de bataille de Bayrou? Excellente question que tu poses. Ça dépendra de François Bayrou. Il faut attendre les interviews, il faut attendre les communiqués de presse, il faut attendre les détails de la politique qu'il a l'intention de mener. Je peux d'ores et déjà vous dire que Bayrou est un homme plutôt conservateur. Hein. En 2012, il s'était opposé au mariage pour tous. Est-ce que ça veut dire qu'il va reculer sur la loi fin de vie? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il était contre l'IVG dans la Constitution? Je ne crois pas. C'est pas non plus Christine Boutin, le mec, quoi. Je peux aussi vous dire que François Bayrou, il a aussi comme identité politique le maintien des comptes publics, la réduction de l'endettement. Alors ça, de manière constante, moi depuis que je suis tout petit, j'entends François Bayrou expliquer qu'il faut que la France se désendette, qu'on est galvanisé par les déficits, qu'on paye les intérêts de la dette un prix tellement stratosphérique que ça représente bientôt plus que notre armée. Voilà. François Bayrou, en 2008, au moment de la crise des dettes souveraines, avait proposé la règle d'or. La règle d'or, c'était une proposition de François Bayrou qui disait il faut qu'on mette dans la Constitution française une interdiction constitutionnel de présenter des budgets en déficit. De la même manière que ça existe pour les collectivités locales, pour tout ce qui est dépenses de fonctionnement, et ben lui, il proposait que l'État n'ait pas le droit de faire des déficits. L'État est obligé de financer ses politiques publiques. Bayrou voudra augmenter les impôts. Je crois que c'est pas un tabou, j'ai entendu. Alors, c'est pas forcément François Bayrou lui-même, mais Hervé Marseille, notamment, parmi les grandes figures de la droite, et surtout du centre, en réalité, pas la droite, mais Hervé Marseille, c'est surtout une figure du centre, qui disait que la dépense publique n'est pas un totem. Il s'agit pas de la faire reculer pour la faire reculer, et l'attractivité du pays ne se résume pas à ces conditions d'accueil des investisseurs. L'attractivité du pays se fait aussi par ses services publics, la qualité de sa vie, tout simplement, la qualité de vie. Et ça, la France a des atouts garantis notamment par ses services publics. Donc, en s'écartant du NFP, le PS doit se sentir un peu ballot maintenant. Comment ils font pour s'écarter du NFP alors qu'ils sont le NFP, au même titre que les autres? Le MoDem a soutenu plusieurs hausses importantes d'impôts lors du PLF. Ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. On a vu dans les négos que le MoDem, c'était pas les derniers pour. Ils sont. Enfin, je déteste ce genre de catégorisation qui, en fait, veut pas dire grand-chose, mais le MoDem, ils sont un peu moins libéraux que les macronistes. Est-ce que pour autant François Bayrou va accepter de reprendre des totems de la gauche, comme par exemple le retour de l'ISF ou la taxation des superprofits? On verra. Le PS est allé négocier avec Macron alors que LFI, non. Oui, je sais. Et alors? Est-ce qu'on connaîtra le gouvernement entier aujourd'hui? Ah non, 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 non. Non, non, je pense pas. Là, François Bayrou est nommé Premier ministre. Il va devoir continuer les négociations avec les partis qui ont accepté de se rendre à l'Élysée. On verra. Bayrou, c'est pas celui qui avait détourné de l'argent public. Alors, le parti politique de François Bayrou, qui s'appelle le MoDem, a été condamné par la justice pour un délit assimilable à celui de Marine Le Pen, c'est-à-dire des emplois fictifs via des assistants parlementaires du Parlement européen. C'était pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, hein. Voilà. Marine Le Pen, c'était un truc systémique, organisé, volontaire, etc. Le MoDem, c'était plus petit comme délit, mais il y a quand même une condamnation du parti. En revanche, François Bayrou lui-même a été blanchi. Ce qui a d'ailleurs fait un peu bugger une partie des journalistes et des observateurs qui disaient c'est quand même bizarre que le parti soit condamné et le chef du parti ne l'est pas, quoi. Genre, il n'était pas au courant. Pas à nous, pas à nous. Est-ce qu'avec sa nouvelle nomination, Bayrou pourra changer le budget de 2025 ou c'est déjà adopté? C'est pas encore adopté, mais il y aura une loi spéciale. En fait, ça n'a plus beaucoup d'importance au stade où on en est. Le budget 2025, il va y avoir un budget qui va être adopté là par une loi spéciale d'ici le 31 décembre. Mais dès le 1er janvier, François Bayrou peut tout à fait présenter au Parlement un budget rectificatif. Un budget rectificatif, c'est un nouveau budget, sauf que c'est en cours d'exécution, mais ça change rien. Si François Bayrou veut prendre des décisions, il les mettra dans ce nouveau budget qui sera débattu au Parlement au premier trimestre prochain. T'as eu raison, Askip Bayrou a menacé de retirer le MoDem du bloc macroniste s'il n'était pas nommé Premier ministre. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça m'étonne pas. Enfin, encore une fois, c'est de la négo. Enfin, c'est. François Bayrou, il négocie avec Emmanuel Macron. Il lui tord le bras, il lui fait, bah, écoute, si tu me donnes pas Premier ministre, le MoDem se casse, c'est la débandade au sein de la Macronie, c'est fini l'alliance, etc. Le parquet a fait appel de la non-condamnation de Bayrou, donc pas encore fini complètement. Oui, j'avais lu ça, effectivement. Alors, par contre, je n'ai aucune information sur quand est-ce qu'on aura le résultat définitif, le jugement définitif. Mais effectivement, il y a un appel qui a été interjeté par les magistrats du parquet, pas de problème. On verra donc si François Bayrou est finalement condamné ou pas. Est-ce qu'il peut être censuré sans 49.3? Absolument. Absolument, François Bayrou peut tout à fait être censuré sans utiliser le 49.3. Les groupes ont la possibilité de déposer des motions de censure. Est-ce que tu penses qu'il va garder des ministres de Barnier? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que t'en penses, le petit chat? Est-ce que Bayrou, il va garder des ministres de Barnier? Est-ce qu'on va garder Anne Genetet? Non? En vrai, c'est une bonne question que tu poses parce que. En fait, la question, c'est à quel point est-ce que François Bayrou va vouloir marquer la rupture? C'est ça la question. S'il veut montrer que c'est un nouveau gouvernement, un nouveau souffle, un nouveau projet, un nouveau programme, il va peut-être avoir intérêt à remplacer 100% des visages. Non, tiens, d'ailleurs, une bonne question à se poser, cher ami, c'est est-ce que Bruno Retailleau va rester ministre de l'Intérieur? Moi, enfin bon, mon analyse à ce niveau-là de l'information que je possède, c'est que les Républicains vont divorcer de François Bayrou. Voilà, clairement, je vois pas un monde dans lequel les Républicains acceptent de ne pas censurer François Bayrou. Alors après, ils sont toujours tiraillés, les Républicains, entre leur désir de respectabilité, de responsabilité, de pas rajouter du chaos au chaos. On ne veut pas voter. Enfin, ça leur trouerait le cul aux Républicains d'être obligés de voter une motion avec le RN, LFI et le NFP. On va encore avoir un groupe LR divisé. Je sais pas. Est-ce qu'il existe un passif entre le modem et LR? Ben oui. La naissance du modem s'est faite contre l'UMP. François Bayrou, sa structuration politique, c'est le rejet de la droite. En tout cas, le rejet de l'alliance avec le parti de la droite gaulliste. Je veux dire, dès le début. D'ailleurs, il y en a un qui s'oppose depuis le début à la nomination de François Bayrou Premier ministre, c'est Nicolas Sarkozy. Hein. Là, le PS, ils ne vont pas participer normalement. Écoute, si on s'en tient aux déclarations qui ont été celles d'Olivier Faure ces derniers jours, il n'y aura pas de participation au gouvernement de la part des socialistes si le Premier ministre n'est pas issu de la gauche. On ne peut pas dire que François Bayrou est un homme de gauche. Autant on peut s'amuser à enculer les mouches si on veut, avec Bernard Cazeneuve, avec des gens issus du PS et tout machin. D'accord, on peut en discuter, on peut machin et tout. Autant François Bayrou, non. François Bayrou récuse lui-même l'idée qu'il appartient à la gauche. Non-censure du PS, ça va dépendre du contenu. Ça va dépendre du contenu. Est-ce que le PS va censurer François Bayrou? Ça va dépendre de ce que propose François Bayrou. Ras-le-bol de la gauche. Ras-le-bol de la gauche. Qu'est-ce que ce sera quand elle sera au pouvoir, hein? Parce que là, elle fait pas grand-chose, hein. Elle essaye, elle y met de la bonne volonté, mais. Si LR censure, il faut que le PS et les écolos s'abstiennent. Si les écolos censurent, il faut que LR et le PS ne censurent pas. J'essaye, hein, je vous jure que j'essaye. Hein. Je vous jure que je fais des efforts pour essayer d'imaginer un monde dans lequel le PS et les Républicains acceptent de ne pas censurer un gouvernement François Bayrou. Et cette phrase, putain, mais cette phrase que je viens de prononcer. Si j'avais une machine à remonter le temps, je reviendrais 10-15 ans en arrière et je dirais, hey, vous voulez rire? En 2024, on se demandera si Bayrou va être censuré par le PS et les Républicains. Allez, salut, hein. Je parie sur la non-censure. Ok, d'accord. Quelle est la ligne rouge qu'accepterait de ne pas franchir François Bayrou pour obtenir la non-censure des écologistes et des socialistes? Ne pas utiliser le 49-3? Ok. Ne pas utiliser le 49-3. D'accord. Donc ne pas utiliser le 49-3, on est d'accord, mesdames et messieurs, que ça veut dire que chaque loi, y compris les budgets, devront être votées par un vote majoritaire à l'Assemblée nationale. Fort bien. Et est-ce que vous pensez que le vote en question peut être favorable à la gauche, compte tenu du fait que la gauche n'a que 200 députés et que tout le reste des députés est opposé à la gauche? On en revient à la gauche à 200 sièges, la droite en a 350. Qu'est-ce que vous en pensez? À quel moment est-ce que c'est favorable à la gauche un texte qui sort de ça? Je dis pas que le 49-3 est favorable à la gauche, hein. Mais par contre, dans la négo, il est possible effectivement que François Bayrou acte le fait de ne pas chercher à être protégé par Marine Le Pen, en disant, vas-y Marine Le Pen, censure-moi, bats les couilles, je vais rien faire pour séduire le RN. Et en revanche, je vais aller chercher du côté de la gauche des marges de négociation et de discussion. Peut-être que là, la gauche a un coup à jouer pour obtenir des trucs et faire avancer un peu son schmilblick. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu miaules? Quoi? Tu veux venir? Hop, attention, ça c'est du café. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Censure ou pas censure? C'est du café, ça, je te jure, tu vas pas aimer. Elle marche bien, tes griffes, hein? T'en es content? T'es efficace? Du coup, vous allez le nommer Bayrou. Non, il s'appelle Milo. Sous Potichat, il s'appelle Milo. Hein, Milo? Tu peux ne pas marcher sur mon clavier, ni sur ma carte son, ni sur mon stream deck. Papa travaille. Papa travaille. Est-ce qu'on peut avoir la ref de l'arbre à chat? Celui-là, il s'appelle le Flower. Tu le trouveras sur Zoho Plus.
Arrête de marcher sur la carte son. Merde, c'est lequel? T'as appuyé sur lequel?
C'est celui-là.
C'est celui-là.
Non, voilà, c'est bon. Arrête de marcher sur la carte son, on en a déjà parlé. Là, tu marches sur mon portable et sur mon clavier en même temps. Qu'est-ce que t'en penses de François Bayrou, toi? Hein? Qu'est-ce qu'on en pense de François Bayrou? Donc, question que je vous pose, mesdames et messieurs, la gauche doit-elle censurer a priori François Bayrou, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, bah les couilles, ou tenter de négocier avec lui pour obtenir des trucs, en échange d'une non-censure. On peut pas faire les deux? Non, on peut pas faire les deux. Par définition, non. On peut menacer de censurer pour obtenir des trucs. Et puis on peut censurer au bout du bout si on n'est pas satisfait. C'est ce qu'a fait Marine Le Pen. La gauche doit-elle faire à François Bayrou ce que Marine Le Pen a fait à Michel Barnier? Ce qui est, d'ailleurs, c'est intéressant parce que hier soir, sur le plateau de Brexit, Marine Tondelier, elle parlait justement de cette, comment dire, diversité d'approches stratégiques au sein du NFP. En disant, il y a ceux qui ne veulent pas négocier et qui veulent attendre d'arriver au pouvoir pour appliquer 100% de leur programme. Et il y a ceux qui veulent d'ores et déjà obtenir des trucs, un minimum, le plus possible, par la négociation. Et c'est deux stratégies différentes. François Bayrou propose depuis des années quelque chose que désire le RN, la proportionnelle. Absolument. T'as juste oublié d'écrire la gauche également dans ton message, mais oui, c'est vrai. La gauche, le RN et François Bayrou demandent la proportionnelle de manière historique et constante. Peut-être que ça, ça va faire partie justement du deal. Imaginez François Bayrou, invité politique de Baxit la semaine prochaine. Normal, quoi. Jusque-là, normal. Qui nous annonce qu'il n'utilisera pas le 49-3, qu'il engage un travail de réforme des institutions en vue d'une assemblée constituante et d'une 6e République, et que, il n'utilisera pas le 49-3. Donc il laissera l'Assemblée nationale négocier, travailler et atterrir sur ses propres compromis. Qu'est-ce que vous en pensez? Une réforme des institutions avec ce Parlement, c'est possible? Oui. C'est peut-être pas celle que tu souhaites, mais techniquement, oui. J'y crois pas trop, hein, à ce que je viens de dire. Mais c'est un scénario que je vous invite à garder en tête pour réfléchir. C'est quoi les lignes rouges? C'est quoi ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'il faut censurer Bayrou avant même qu'il ouvre la bouche? Ou est-ce qu'il faut d'abord écouter ce qu'il a à dire pour voir si on peut peser dans le bordel et utiliser l'arme de la censure pour négocier? Quarante-neuf trois égale censure. Je sais pas, on verra. Arrête de marcher sur le. Marche pas sur la carte son. Aïe, aïe, aïe! Non, les griffes. Putain. On en a déjà parlé de ça. Tu sais, on en a parlé vers 4h du matin, quand tu m'as griffé le visage. Tu te souviens ou pas? On avait une petite discussion à ce moment-là. Mais non, mais il a 3 mois, du coup, il maîtrise pas ses griffes. Donc voilà, il... Mollo, les griffes. Baxit, c'est le 20 ou le 19? Baxit, ce sera le 19. Nous avons une émission supplémentaire. Compte tenu de l'actualité politique, on a décidé de maintenir une émission Baxit la semaine prochaine. Le 19. Avant, de base, ce n'était pas prévu, mais on a décidé de le rajouter grâce à un partenaire également qu'on vous présentera. Loudoudoum. Donc oui, effectivement, pour ceux qui ont raté l'info, François Bayrou aurait menacé Emmanuel Macron de quitter le bloc macroniste, le bloc central, si d'aventure il n'était pas entendu et nommé Premier ministre. C'est donc François Bayrou qui a le mieux tordu le bras d'Emmanuel Macron pour obtenir de sa part un truc. Alors moi je veux bien, hein, je tout à fait imaginer que François Bayrou menace Emmanuel Macron de faire ça, mais ça veut dire quoi? Quitter le groupe, le bloc central, ça veut dire quoi? Quitter le bloc central? Est-ce que ça veut dire renier les 7 ans de travail qui ont été faits? Voter différemment de ce qu'il faisait avant? En vrai, ça veut dire quoi? C'est ça que je comprends pas. Bon, non, mais très bien. Je sais pas, je suis très dubitatif. Comment le PS et les Verts ont réagi à l'annonce? Écoute, je n'ai pas encore d'informations sur les réactions des socialistes et des écologistes. Je ne sais pas si on a une prise de parole d'Olivier Faure. Je check le direct du Figaro. Olivier Grégoire félicite. Marine Le Pen qui tweet. Après de longues tergiversations, le président de la République a décidé de nommer François Bayrou à Matignon. Soucieux de l'impérieuse nécessité de protéger les Français, nous lui demandons d'entreprendre ce que son prédécesseur n'a pas voulu faire, entendre et écouter les oppositions pour construire un budget raisonnable et réfléchi. Toute autre politique qui ne serait que le prolongement du macronisme, rejeté par 2 fois dans les urnes, ne pourrait mener qu'à l'impasse et à l'échec. Elle ne dit pas grand-chose, Marine Le Pen. Manuel Bompard annonce à son tour que les LFI déposeront une motion de censure, pas de surprise. La passation de pouvoir à Matignon aura lieu à 17h. Il est 13h33, formidable. Yael Braun-Pivet qui invite Bayrou à fédérer les énergies, oui, très bien. Bayrou doit dialoguer avec les partis hors Rassemblement national pour trouver l'équilibre. Ok. Gabriel Attal salue la nomination. Fabien Roussel du PCF qui dit que la nomination de Bayrou est une mauvaise nouvelle. Je cite, va-t-il s'obstiner à vouloir imposer une politique qui a échoué et a été sanctionnée? Nous demandons un changement de cap politique, le respect du Parlement et pas de 49-3. Voilà les 3 demandes de Fabien Roussel pour le PCF. Marine Tondelier a réagi. Elle a dit que c'était du mauvais théâtre de boulevard. C'est plus de la politique, c'est du mauvais théâtre de boulevard, s'est indignée la députée ELV sur X quelques minutes après la nomination de François Bayrou à Matignon. Avant de poursuivre, pauvre France, 3 points de suspension. Pas très inspiré, Marine Tondelier, ce matin. Hein. François Ruffin votera la censure. Macron se moque des Français, ce sera la censure. Ok, non, mais je regarde un petit peu. Jusque-là, c'est très attendu, hein. C'est très attendu les réactions, hein. Selon toi, pardon, il y a un monde dans lequel Macron cède à Bayrou dans l'attente qu'il se fasse censurer pour légitimer un article 16? Non. Non, et vraiment, l'article 16 n'est pas une baguette magique. Hein. C'est pas un truc qui te permet de faire, c'est pas un truc qui te permet de faire n'importe quoi. Hein. L'article 16 a beau être un article à la con, Il permet des pouvoirs exceptionnels pour le président de la République dans un but bien précis et dans des conditions bien spécifiques. Donc, vous ne pouvez pas faire passer un budget en article 16. Hein. Bon, sert pas à ça. Et des risques de voir les grèves et les mouvements sociaux renforcés par cette nomination en cette fin d'année. Écoute, c'est toujours pareil, hein. Tu sais, la météorologie des mouvements sociaux, c'est pas une science exacte. Est-ce qu'une nomination d'un Premier ministre un 13 décembre peut provoquer des mouvements massifs de contestation à quelques semaines de Noël, à quelques jours de Noël, alors que les Français ont peut-être pour beaucoup d'entre eux la tête un peu ailleurs dans ce moment familial et tout? C'est déjà arrivé que ça marche, hein. Attention, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'à Noël, il n'y a jamais de mouvements sociaux, hein. Les grèves de 95, de mémoire, c'était à Noël. Les gilets jaunes, en 2018, c'était à début décembre. Hein. Et puis ça a continué ensuite pendant les vacances de Noël. Donc, bon. Ceci étant, on constate qu'il y a eu des journées de mobilisation interprofessionnelle ces derniers jours qui, pour l'instant, ne sont pas des mouvements massifs. Donc. Voilà, et pour répondre à ta question, est-ce que la nomination d'un Premier ministre peut provoquer des manifestations? Non. Non. Les gens, ils descendent pas dans la rue parce qu'ils n'aiment pas la tête de quelqu'un. Ils descendent dans la rue parce que les politiques menées sont injustes, contestables, etc. Voilà. Pas ce Premier ministre, en tout cas. Oui, non, voilà, c'est François Bayrou. François Bayrou n'est pas. J'irais pas jusqu'à dire que François Bayrou est consensuel. François Bayrou, il est central. Il n'est pas haï, détesté, vilipendé, etc. Pas encore. Ça a peut-être commencé. Attention, il est relativement nouveau dans tout ce qui est pouvoir exécutif, hein, François Bayrou. Je vous rappelle que Bayrou, à part avoir été maire de Pau, il a été ministre que quelques mois en 2017, hein. Pas eu le temps de marquer les esprits. 40 ans de vie politique, et c'est uniquement le 13 décembre 2024 qu'il commence vraiment à bosser. Oui, vous avez raison, il a été haut commissaire au plan. C'est vrai, autant pour moi. Il a été haut commissaire au plan. Waouh. De quoi marquer la rétine des Français. Tout le monde s'en souvient. Et il a été ministre de l'Éducation. Ouais, il a été ministre de l'Éducation, François Bayrou. C'est vrai. Mais on est d'accord que c'était au siècle dernier. Ah, pardon, hein, sans manquer de respect à François Bayrou, mais il a été ministre de l'Éducation nationale au siècle dernier, donc bon. Voilà, je veux dire, en termes de souvenirs. Non, attention, déjà, je veux pas être méprisant envers François Bayrou, c'est pas mon objectif, je m'en fous, mais c'est pas injurieux de dire que François Bayrou n'a pas marqué l'esprit des Français par son action exécutive. Par contre, François Bayrou est un personnage historique connu de la vie politique française, ça c'est vrai. François Bayrou, il a été candidat à l'élection présidentielle à plusieurs reprises. Les Français connaissent sa tronche, connaissent sa voix, son visage. Les Français connaissent son positionnement politique aussi. Il n'y a pas vraiment de mystère. On ne peut pas dire que c'est un mec de la société civile. On ne sait pas trop et tout. Merci pour le raid. Donc non, François Bayrou n'est pas un total inconnu. Pour autant, est-ce que les Français l'adorent? Je pense pas. Du coup, c'est quoi la strate de Macron? La strate de Macron, c'est, ben, il le dit lui-même. Enfin, il suffit de l'écouter, hein. Il veut faire bosser ensemble les ennemis d'hier que sont le PS et les Républicains. Macron s'accroche à son idée, mais au demeurant, c'est pas mal en soi de s'accrocher à ses idées, hein. Enfin, je vais pas. C'est pas parce que c'est des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord que c'est pas le sujet. Macron est convaincu qu'on peut trouver des compromis qui font avancer le pays en bonne intelligence, machin, etc. On peut dépasser les clivages. Donc voilà quoi. D'ailleurs, oui, pardon, point anecdotique pour ceux qui ne le savent pas, François Bayrou est un ancien bègue. Voilà, François Bayrou a été bègue dans sa jeunesse. Il a, semble-t-il, d'après sa biographie, beaucoup travaillé pour lutter contre son bégaiement. Et il a réussi à devenir une personnalité politique majeure dans le pays, ce qui est plutôt pas mal pour un ancien bègue. Voilà. Je le dis tout de suite, hein, les gens qui se moquent de la diction de François Bayrou, c'est Bandef. Hein. Enfin, comme d'hab, hein, sur ma chaîne, vous connaissez. Ce genre de personne est Bandef et il ne nous manque pas. Il est agrégé de lettres. Ouais, il est agrégé de lettres. Gifleur de pickpocket aussi. Oui, absolument. Alors, c'était en 2007, je crois. François Bayrou était candidat à l'élection présidentielle et il a fait un déplacement. Ah non, c'était 2002? Hein, c'était 2002? Incroyable. En fait, j'ai toujours en tête 2007 comme campagne présidentielle, déjà parce que c'est la première que j'ai vraiment connue. Et en plus, parce que Bayrou a fait un très bon score. Il avait fait un 18%, un 17% au premier tour, qui était assez stratosphérique hein, pour un François Bayrou. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en 2002, François Bayrou, candidat à la présidentielle également, effectivement, est en déplacement. Dans un quartier populaire, et il est entouré de plein de jeunes. Enfin, c'est un peu le bordel, hein. C'est une espèce de bain de foule. Bref. Et à un moment, donc tout ça est filmé par des caméras. Hein. Il y a des journalistes qui filment le déplacement du candidat. Et François Bayrou colle une tarte à un gamin. Vraiment. Genre, il y a un gosse qui est assis à côté de lui. François Bayrou se retourne, il lui met une tarte devant les caméras. Et tout le monde est un peu interloqué, genre, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, Bayrou, il dit au gamin, tu ne me fais pas les poches. Tu ne me fais pas les poches. Il semble. Alors, de deux choses l'une, soit le gamin a effectivement mis sa main dans la poche de François Bayrou pour essayer de tirer un truc, et ça mérite pas pour autant une tarte, pardon, mais voilà. Soit Bayrou s'est trompé, il a cru que le gamin était en train de lui faire les poches, alors que pas du tout, le gamin passait par là. Je lui ai juste pris une tarte. Voilà, je sais pas, on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne saura jamais. Est-ce qu'effectivement le gamin avait sa main dans la poche de Bayrou? On ne sait pas. Mais c'est resté effectivement un peu dans les annales, cette image d'un candidat à la présidentielle qui colle une tarte à un mioche, en toute décontraction pendant un déplacement. La vidéo est assez claire. Eh bien écoutez, on va faire les juges de paix, hein. On va regarder la vidéo, même si je n'ai pas les droits de diffusion.
Jeunes viennent de lancer des pierres.
Ah, ok. Bon, d'accord. Là, j'accepte le prix pour cible. Si effectivement, il y a eu caillassage, bon, ça mérite toujours pas une gifle, mais effectivement, on voit bien un carreau pété, etc. D'accord. Ok. Comment dire qu'on est sur une rencontre entre un politique et les jeunes un peu particulière? Effectivement, le côté je viens en costume te faire la leçon en t'expliquant que c'est plus possible. Voilà donc la gifle de François Bayrou. L'épisode de la gifle de 2002 qui est resté un petit peu dans les annales, dont on se souvient. J'avais zappé que c'était passé à Strasbourg, effectivement. Bon, voilà, on ne sait pas si le gamin lui a fait les poches ou pas. Mais François Bayrou, je pense que je vais lui offrir mon bouquin. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je sais pas, rapport à la jeunesse, manière de parler aux jeunes, quand on est un politique, posture, tout ça. Je sais pas. Je sens qu'il y a un petit travail. Alors peut-être qu'il a changé. Peut-être qu'il a changé. C'était il y a un quart de siècle, hein, quand même, ce qu'on vient de voir. Donc bon. T'as
toujours ton livre sur ton bureau ? Ouais, j'ai toujours mon livre sur mon bureau, hein, il bouge pas, il est toujours là. Je le relis de temps en temps. Pas très bien écrit, hein. Enfin, un peu daté, on va pas se mentir. Faut retrouver le gamin. Faut retrouver le gamin et il faut l'investir candidat du NFP à Strasbourg. Allez, on rigole. Attends, j'essaie de me souvenir. Est-ce que vous vous souvenez du gamin qui a giflé Macron ? Vous vous souvenez, le petit con, là, Montjoie Saint-Denis, abat la Macronie ? Le petit facho, là. Il n'a pas été investi aux élections, lui ? Il n'y a pas un parti qui l'a investi ? Vous vous souvenez ou pas ? C'était pas un gamin ? Pardon, c'est peut-être méprisant de ma part, alors c'est un jeune, non ? Il n'a pas l'air d'être très vieux, le bonhomme, quand même. Un étudiant à tout péter ? Investi par le NPA ? Au moins 30 ans. Ah ouais ? Non mais attends. Alors là, pareil, je demande la VAR. Je demande la VAR. Peut-être que je me trompe, hein. Macron qui court pour faire des bisous.
Allez, venez là. Un petit coup.
Oula. Ah ouais, non, vous avez raison. Non, vous avez raison. Cheveux longs, grosse beubard. Ouais. Non, mais ouais. Donc, ouais, effectivement.
Un petit coup. Oula.
Les vieilles dames qui étaient venues tranquillement pour faire un selfie avec le président de la République, ça faisait une heure qu'elles poirotaient. Maintenant, tout est gâché. Donc, effectivement, le facho n'était pas un adolescent. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis dans le crâne que c'était, je sais pas, un lycéen, un truc comme ça. Mais non, pas du tout. Après, c'est un move d'ado. Oui, c'est un move d'ado. Et donc, royaliste égale facho. Je crois qu'on peut l'affirmer, ouais. Enfin, je dis ça à l'aune de deux siècles d'histoire de France. Je voudrais pas faire une généralité abusive en disant que le monarchisme et le royalisme est quand même stratosphériquement opposés aux valeurs de la République, à la réalisation d'un idéal commun égalitaire, etc. Voilà, je... Ouais, non, ça s'est assez bien situé, le royalisme. Et donc, je me souviens plus si ce mec a été... investi, mais je croyais qu'il avait été invité par un parti politique, voire même investi à une élection, je sais pas. Invité de Dieudonné, ouais, soutenu par Juan Branco, ça j'avais vu aussi. Avec Dieudonné, ouais. Il s'appelle Damien Tarel, il a 32 ans, ouais, d'accord. Non, c'est des belles personnes, hein, c'est des... on nage en nos troubles, c'est intéressant. Putain, il y a Juan Branco qui continue à faire parler de lui. J'ai vu l'article de Libération hier. Les pauvres victimes de Juan Branco. Mais quel enfer. Quel enfer de tomber sur ce mec. Déjà, être victime de viol, c'est être victime d'un crime, c'est terrible. Mais quand c'est ce mec-là qui a cette surface-là, public, qui parle et tout, qui se présente à la présidentielle, qui se dit victime d'un complot ourdi par les forces obscures et tout. Contexte. Le contexte, c'est que Juan Branco est accusé de viol par plusieurs femmes, plusieurs victimes. On était déjà au courant d'une des affaires. Hein. Je vous rappelle qu'il avait quand même été interpellé pour avoir drogué une femme en vue d'avoir des rapports sexuels non consentis avec elle. Soumission chimique, tout ça, enfin voilà, une belle personne quoi. Et là, il y a un article de Libé, une enquête de Libé qui est sortie et qui est allée collecter d'autres témoignages de femmes qui l'accusent d'attouchement sexuel ou de viol. Et Juan Branco essaye de faire essaye de se défendre en utilisant une espèce de stratégie de rupture, un peu à la Jacques Vergès. Je suis victime. En fait, il se fait accusateur à son tour. Juan Branco estime que ces journalistes qui publient des articles mettant en cause, enfin le mettant en cause comme auteur de viol et d'agression sexuelle, sont en réalité partie prenante d'une machination qui vise à une seule chose, c'est empêcher Juan Branco d'être élu président de la République. Juan Branco est un opposant politique opprimé par un appareil dictatorial auquel participent les médias. Voilà. C'est une éternelle victime. Toujours, toujours. Juan Branco, il a éternelle victime et tout. Et donc voilà, je sais pas, moi j'ai une pensée particulière pour ces victimes quand même. C'est, enfin, quel enfer. Vous connaissez pas l'ange noir de Saint-Germain qui monte malgré le silence des médias? Ouais. Non, 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 c'est. Si vous connaissiez pas, je vous invite à pas particulièrement faire de recherche. Hein. Là, vraiment, on est sur un bail où vraiment je m'en voudrais de vous faire claquer un quart d'heure ou 20 minutes de lecture d'articles pour parler de ce mec. Hein. Enfin, vraiment, venez, on essaye de rester sur François Bayrou, Premier ministre, négociations, tout ça, NFP, les Républicains. Voilà. Allez lire la page Wikipédia de François Bayrou. Allez, tiens, là, pour le coup, oui, évidemment, le mec qui est Premier ministre, au moins pour quelques mois, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bayrou est bien plus cool. Oui, non, mais voilà, Bayrou est accusé, enfin, en tout cas, le parquet a fait appel d'une condamnation de relaxe de François Bayrou dans le cadre d'une affaire d'assistant parlementaire fictif au Parlement européen. Non, mais. Est-ce que Bayrou va battre le record de Barnier? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas te répondre. À l'heure actuelle, on ne peut pas te répondre. J'en sais rien, moi. Est-ce que François Bayrou va tenir plus longtemps que Barnier? Il y a un monde où il saute dès le premier jour. Il y a un autre monde où. S'il y a un accord avec le PS, il ne se fera pas censurer. Alors, si tu le permets, on va regarder ensemble quand même notre ami, le simulateur de coalition, qui vote la censure en admettant qu'il y a un espèce d'accord avec le PS, ce qui continuera à m'interroger toute ma vie. LFI vote la censure, les communistes votent la censure, les écolos votent la censure. L'URN vote la censure, l'UDR vote la censure et la droite républicaine vote la censure. Voilà, terminé. Fin de François Bayrou, sortie de route. Pourquoi LR voterait? Ben, parce qu'il y a un accord avec les socialistes. Vraiment, je suis désolé, je ne vois pas un scénario dans lequel les Républicains ne censureraient pas un gouvernement qui a un accord avec le Parti Socialiste. Enfin, je veux dire, c'est quand même des gens cohérents. Ils sont pas... Voilà. Pourquoi le RN voterait la censure actuellement si le budget va dans leur sens? Et le budget va pas dans leur sens. C'est même pour ça qu'ils ont censuré Michel Barnier. Marine Le Pen ne va pas censurer, elle veut la proportionnelle. Non mais tu as raison, non mais tu as raison. D'où la chose sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. Que peut proposer François Bayrou pour esquiver la censure, au moins au début? Pas d'utilisation du 49-3, vote d'un texte en faveur de la proportionnelle. La loi immigration, bah la loi immigration, mesdames et messieurs, je suis navré de, elle me paraît morte et enterrée, la loi immigration. Enfin, il semblerait, d'après ce qu'a dit Marine Tondelier hier soir sur le plateau de l'excellente émission Backseat, que Emmanuel Macron a convenu qu'il fallait arrêter de chercher la protection du RN. De toute façon, maintenant Macron, il considère qu'il a pas tort, hein, que le RN n'est pas un parti fiable. Le RN, ils te disent en septembre on censurera pas, et en décembre, ouais, si finalement on censure. Donc c'est pas la peine d'essayer de discuter avec eux, de négocier avec eux, ces gens-là de toute façon ils en font qu'à leur tête. Marine Le Pen elle a d'autres agendas, donc nique, on arrête de discuter avec le RN et de faire semblant. Bon, bah à partir du moment où tu romps avec le RN, tu vas pas leur offrir une loi immigration en fait. Pourquoi faire? Surtout si tu essayes de trouver des accointances avec le PS. Faut pas... Voilà. Donc non, il n'y aura pas de loi immigration. À mon avis, c'est mort et enterré. On verra. Alors ça, je serais très curieux de savoir si Bruno Retailleau est reconduit. Pour moi, non. On verra. Vraiment, on verra, mais... Donc le but, c'est compromis avec LR plus PS. Moi, ça, j'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. C'est peut-être le but affiché. Mais faut vraiment, j'aimerais bien avoir une discussion avec Emmanuel Macron un jour là-dessus. Quand même, c'est vrai. Pourquoi le PS et LR accepteraient, après un demi-siècle d'opposition frontale quotidienne, de finir par se mettre d'accord pour participer à un gouvernement bancal pour accompagner la fin du macronisme? Pourquoi ils feraient ça? Il y a un moment, c'est des acteurs rationnels. Et c'est ce que disait Usul sur le plateau d'hier est assez juste. Les socialistes qui sont favorables à une discussion avec LR et les LR qui sont favorables à une discussion avec le PS, et ça fait longtemps qu'ils sont partis, en fait. Ils sont plus là. Ils ont construit le macronisme. Ça fait 7 ans qu'ils ont au pouvoir, ces gens-là. Ils sont déjà partis. Les Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, les gens issus du PS, les Richard Ferrand, etc. Ces gens-là, ils sont déjà partis. Donc quand tu discutes aujourd'hui avec Laurent Wauquiez et avec Olivier Faure, tu discutes avec des gens qui sont les moins aptes à discuter avec toi et surtout à se mettre d'accord ensemble. Bon, bah voilà. Pour moi, c'est fin du game à partir de là, quoi. Donc non, je ne crois pas, je continue à ne pas croire à une espèce d'alliance du PS et des Républicains, main dans la main, non. il y en a un des deux qui va canner et qui va dire non, c'est sans moi, merci, au revoir. C'est quoi le profil de Bayrou? Je ne le connais pas. Bayrou, François Bayrou, c'est le représentant en France du centre indépendant. Okay, François Bayrou, c'est l'homme qui a refusé la fusion entre l'UDF et le RPR, en gros entre le centre et la droite, qui se sont fondés dans un seul et grand parti au début des années 2000, qui s'est appelé l'UMP. François Bayrou, lui, il a refusé ça. Il s'est barré, il a maintenu l'UDF en dehors de l'accord et il a fondé un nouveau parti qui s'appelle le Modem, dont l'identité a toujours été de refuser l'alliance avec la droite. L'alliance avec la gauche aussi, mais avec la droite, c'est ce qui était plutôt la pente naturelle du centre-droit en France. Donc François Bayrou s'est retrouvé tout à fait dans les visées d'Emmanuel Macron en 2016, il l'a rejoint, il a même accepté de ne pas se présenter à l'élection présidentielle et de soutenir Emmanuel Macron, et bien lui en a pris, puisque voilà, le Modem a obtenu un groupe de députés à l'Assemblée nationale, s'est retrouvé au cœur des discussions et des négociations, voilà. Donc quelle est la carte d'identité, disons idéologique, de François Bayrou? C'est un centriste, chrétien, assez conservateur sur les histoires de mœurs, européiste, très favorable à la construction européenne, clairement, libéral, mais pas libéral hardcore à la Alain Madelin ou à la Emmanuel Macron, hein, plutôt libéral qui veut soulager les entreprises pour booster la croissance, mais qui défend quand même les services publics, parce que l'identité de la France, c'est aussi un État fort. Donc c'est pas casse-barriant, quoi. Voilà. Libéral européen. Quoi d'autre? Les conservateurs sur les histoires de mœurs. Une girouette? Non. Non, François Bayrou n'est pas une girouette. Non, alors pour le coup, pardon, François Bayrou n'est pas une girouette. Alors lui, il sait où il habite et il n'a jamais changé d'adresse. Hein. Un démocrate à l'américaine, ça n'a pas beaucoup de sens, hein, vous savez. Pas vraiment transposer les partis politiques d'un autre pays à un autre. C'est pas les mêmes sociétés, pas les mêmes cultures, pas la même histoire, pas les mêmes institutions, donc mollo là-dessus. Non, si, voilà, si, il me manquait un truc dans la carte d'identité que je vous faisais de François Bayrou. François Bayrou est également un austéritaire. C'est-à-dire que François Bayrou a toujours défendu, et pour le coup, il n'a jamais changé d'avis, il a toujours défendu un strict maintien des déficits publics et une réduction de l'endettement. Voilà. François Bayrou met en exergue l'endettement public en France, dit que c'est un problème majeur pour les générations futures, qu'il va falloir s'y attaquer le plus vite possible. Et pour ça, il est même allé jusqu'à proposer ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire l'interdiction pour l'État de présenter des budgets en déficit. Contraire à la gauche? Non. Non, c'est pas contraire à la gauche. C'est écrit nulle part dans l'identité politique de la gauche que les budgets doivent tous être en déficit. Hein. Il est favorable à une retraite à 65 ans. Oui, absolument. François Bayrou, de longue date, est favorable à un report de l'âge légal de départ à retraite. Franchement, oui. C'est peut-être une analyse simpliste, mais Macron pouvait pas nommer un Premier ministre de gauche, sinon il serait passé pour le bordélisateur si ses propres députés avaient censuré le Premier ministre de gauche. Mais non, mais c'est pour ça que depuis le début, moi je dis qu'Emmanuel Macron ne nommera un Premier ministre de gauche que s'il négocie auparavant avec le Premier ministre en question un accord de non-censure. C'est pour ça que, pareil, quand Marine Tondelier le dit, je continue à penser que c'est une connerie. Le coup de « Allez, on nomme un Premier ministre et on voit ce qui se passe », ça n'existe pas dans aucun pays du monde, à aucun moment de l'histoire. On joue pas à la roulette russe, on joue pas à pile ou face, on négocie, on discute. Donc voilà. Le jour où Emmanuel Macron nommera un premier ministre de gauche, c'est qu'il se sera mis d'accord avec le ministre de gauche en question sur les conditions d'une non-censure, à minima. Voilà. Mais là, avec qui il a négocié pour nommer Bayrou et qu'il ne soit pas censuré? Mais c'est une bonne question que tu poses. Mais non, mais c'est une bonne question que tu poses. On va dire les termes. Je suis circonspect, mesdames et messieurs. Voilà. Je suis circonspect. Il est 14h. J'ai appris il y a 1 heure que François Bayrou était nommé Premier ministre. Vous me prenez en pleine circonspection. Je sais pas où est-ce que ça va. Je sais pas où est-ce que ça va, je sais pas quel est le projet, je sais pas quel est le deal. Pour moi, je suis désolé, mais il n'y en a pas. Enfin, encore une fois, pardon, mais vous avez entendu Lucie Castet sur Backseat hier soir. C'est un moment, en termes de clarté, voilà. J'ai dit quoi? J'ai dit Lucie Castet? Non, pardon, c'était Marine Tondelier. Mais non, mais je les confonds, tic et tac, là. Mais vas-y, je suis fatigué. Parce qu'elles ont fait une initiative commune, là, pour une candidature à gauche, candidature unique à gauche et tout. Du coup, voilà, je les confonds. Oh, c'est bon, hein. Est-ce que le backseat d'hier est en rediff quelque part? Oui, absolument. Le backseat d'hier est d'ores et déjà disponible en intégralité, en rediffusion, sur ton espace donateur sur KissKissBankBank. Hop, il suffit de te connecter sur ton compte KissKissBankBank et tu as accès au replay. J'ai prévu de passer Noël à Paris avec ma fille de 3 ans. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce qu'il va y avoir du grabuge? Va pas y avoir de grabuge. Pas du tout. Enfin, vraiment, rassure ta fille et embrasse-la pour moi et souhaite-lui un joyeux Noël. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On verra. On verra. Pardon, on verra en janvier, février, mars si effectivement un mouvement social se met en place. On verra. En vrai, on verra. Mais là, le seul grabuge qu'il va y avoir, le seul grabuge qu'il va y avoir, c'est dans le cerveau de François Bayrou et dans le mien aussi. Non, parce que moi, là, je vais pas y arriver. Hein. Moi, je peux plus analyser là. Hein. Je suis désolé. Hein. François Bayrou, Premier ministre. Dans des conditions aussi bordéliques que celles qu'on a aujourd'hui, avec une Assemblée nationale tripolarisée où rien ne va. Personne n'a la majorité, personne n'a gagné, tout le monde le revendique pourtant, etc. Oh là 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 là. Oh là là. Est-ce qu'il a un délai pour nommer ses ministres? Non. Non, il n'y a pas de délai pour nommer les ministres, il y a juste. On est quand même un peu pressé parce qu'il faut. Il faut voter la loi spéciale, donc il faut que le Parlement reprenne ses travaux. Donc bon, je dis ça, mais le Parlement a commencé à examiner la loi spéciale déposée par le gouvernement démissionnaire de Michel Barnier, en commission des finances en tout cas. C'est pas pour cette fois-ci que je peux m'attourner au chat. Et non, Raphaël. Et non, et non, et non. N'y a-t-il pas eu un gros chantage de Bayrou envers Macron pour qu'il obtienne le poste? Il semblerait que si. Selon les informations qu'on a obtenues aujourd'hui, il semblerait que François Bayrou se soit engueulé fort avec Emmanuel Macron ce matin, en le menaçant de quitter la coalition centriste si d'aventure il n'était pas nommé Premier ministre. Bon, ça s'appelle un bras de fer. Hein. C'est de la politique, les amis, c'est normal, c'est naturel, c'est habituel, il n'y a pas de souci. C'est classique, et ce n'est pas du tout propre aux camps macronistes. Hein. Ouh là là, ouh là, oh là là. Ceci étant, mon cher François Bayrou, pourquoi tu fais des pieds... Pourquoi tu chies une pendule pour un poste de Premier ministre dans ces conditions-là? Genre... Il y a un petit côté, je veux absolument être le président de... je veux absolument être le capitaine du Titanic. Je veux être le capitaine du Titanic. Mais non, mais il est en train de couler, là, le Titanic. J'en ai rien à foutre. Je veux être le capitaine. Je veux la casquette. Je veux les petits chevrons et tout. Je veux être capitaine. T'es sûr? Enfin, si tu veux, hein, vas-y. Non, mais... Franchement, je... Alors après, au demeurant, attention... Attention, parce que faire de la politique, c'est pas de faire de la politique que quand c'est facile. Hein. Faire de la politique, c'est aussi faire de la politique dans l'adversité, au moment où c'est difficile, au moment où on n'a pas de majorité, où c'est le bordel, etc. Enfin, c'est, voilà, c'est aussi ça, faire de la politique, et je considérerais toujours qu'il y a quelque chose d'honorable à accepter de devenir Premier ministre avec cette Assemblée-là. Et tout ce que je dis, c'est que je suis désolé, mais ça va pas aller très loin, hein. On bosserait moins, tiens. J'ai jamais fait de la politique dans un moment facile, je crois. Non, mais voilà, Raphaël Rémy Leleu, qui est dans le chat, qui est élu parisienne écologiste, vous le dira effectivement. Je veux dire, la politique, c'est de l'adversité. On fait de la politique contre vents et marées. Et bon, bah voilà. Surtout quand on est dans l'exécutif, quel que soit l'exécutif, au niveau local, national, etc. Moi, je vous ai toujours dit que gouverner, c'est avoir une mauvaise cote de popularité, avoir des couacs gouvernementaux matin, midi et soir, des questions de journalistes hyper tranchantes sur tous les plateaux télé et radio, et des oppositions démagogues qui sont de mauvaise foi et qui en font qu'à leur tête. Voilà. C'est ça les conditions dans lesquelles on gouverne. Ben, bon courage. Hein. Et c'est pas facile. Hein. Un petit résumé de qui est Bayrou et de ce qu'on sait de lui pour les néophytes. Pour, si vous ne le connaissez pas, François Bayrou est une personnalité politique publique française centrale depuis 40 ans. Hein, c'est quelqu'un d'assez connu. Il a été candidat à l'élection présidentielle à plusieurs reprises. François Bayrou est un centriste. C'est même un centriste indépendant. C'est-à-dire que François Bayrou a une identité politique dans l'indépendance et l'autonomie du centre. François Bayrou n'aime pas et refuse les alliances entre le centre et la droite, et le centre et la gauche aussi. Il veut un centre indépendant et autonome. Ça a toujours été sa carte d'identité qu'on a retrouvée dans son refus d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour en 2007, et qu'on a retrouvée dans la fondation de son parti qui s'appelle le Modem. François Bayrou est un allié d'Emmanuel Macron depuis 2016-2017. Hein, il a fait partie des premiers à soutenir la candidature à l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Et François Bayrou est aujourd'hui à la tête du Modem. Il a été, pendant une courte durée, ministre de la Justice au tout début, en 2017. Puis il a démissionné de son poste lorsqu'il a été mis en cause dans une affaire d'emploi fictif d'assistant parlementaire au Parlement européen, sans que les proportions soient comparables avec le RN, hein, mais voilà. Et politiquement, François Bayrou est un centriste, libéral, européen, chrétien conservateur, austéritaire, assez clairement, démocrate, favorable de longue date au scrutin proportionnel. Voilà. Voilà pour ce résumé rapide du bonhomme qu'est François Bayrou. Il est Macron compatible. Il est plus que Macron compatible. C'est même plutôt, pardonnez-moi l'expression, c'est plutôt Macron qui est Bayrou compatible. Plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait, d'ailleurs. Et effectivement, François Bayrou a été ministre de l'Éducation nationale dans les années 90, au siècle dernier. La motion de censure peut-elle vite être déposée ou y a un délai? Il n'y a pas de délai. Je te rappelle que quand Michel Barnier a été nommé Premier ministre, il y a une première motion de censure qui a été déposée très rapidement. Là, rebelote, hein, les Insoumis ont annoncé qu'ils allaient déposer une motion de censure. Voilà. Est-ce qu'un deal avec le RN sur un budget plus à gauche contre une loi sur la proportionnelle est envisageable? Je ne sais pas ce que tu appelles un budget plus à gauche, parce que Marine Le Pen défend des mesures en faveur du pouvoir d'achat qui sont similaires à ce que défend une partie de la gauche. L'indexation des retraites sur l'inflation, ça en fait partie, tu vois. Bon, après... Le RN défend aussi l'abolition de l'AME, ce que la gauche conteste absolument. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui avaient raté l'épisode, que Marine Le Pen, au cours de la dernière élection présidentielle, a fait un virage assez sérieux quand même dans son projet et son programme et son discours. Marine Le Pen a relégué au second plan les questions migratoires, pour mettre au premier plan de son offre politique le pouvoir d'achat des Français les plus fragiles. Aujourd'hui, Marine Le Pen passe plus de temps à parler de pouvoir d'achat que d'immigration. Quel est l'argument de LFI pour déposer une motion de censure si tôt? Pas besoin d'argument, hein, tu sais... Oui, non, LFI dépose une motion de censure parce qu'ils veulent censurer Bayrou. Non, l'argumentaire d'LFI est toujours le même, hein, ça n'a pas changé depuis juin dernier. On a gagné les élections législatives, on est les seuls légitimes à gouverner pour appliquer notre programme, rien que notre programme, tout notre programme. Tout ce qui ne va pas dans cette direction est censuré. Voilà. Donc non, les insoumis, pour le coup, eux, ils sont cohérents, ils changent pas d'avis en fonction du Premier ministre, quoi. Est-ce que c'est vraiment utile de déposer une motion de censure, sachant qu'ils savent que ça ne va pas passer? On ne fait pas de la politique que quand on gagne. Être député d'opposition, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais être député d'opposition, c'est passer ses journées à défendre des trucs qui ne seront jamais votés. C'est ingrat, hein, la politique dans l'opposition. Mais pour autant, un politique défendra toujours ses opinions, qu'ils soient majoritaires ou pas. C'est nul? Bah non, c'est pas nul. Non, c'est pas nul. Comment vous dire Nelson Mandela, dans sa cellule de prison, il a continué à se battre. On se bat. Quand on fait de la politique, on se bat. On se bat pour ses idées, on se bat pour son... On se bat pour progresser électoralement, on se bat pour ce qu'on estime être l'intérêt général. Qu'on soit majoritaire ou minoritaire, on se bat. Regardez le nombre de gens de gauche dans le chat là, qui se battent matin, midi et soir dans mon chat pour défendre la gauche. Bon, bah, ils savent très bien qu'ils perdent les élections les unes après les autres. Bah, ils s'arrêtent pas de se battre. Hein. Et ils ont raison. Enfin, je veux dire, c'est ça, militer. On n'attend pas qu'il fasse beau pour sortir. Hein. Bon, ben voilà, ben au Parlement, c'est pareil, on défend son bout de gras. On défend ses idées, même si on sait qu'on va perdre. Mais c'est comme... la comparaison que j'ai souvent, c'est est-ce que ça vaut le coup de défendre un accusé dans un tribunal? Est-ce que ça vaut le coup de passer du temps à défendre un mec alors qu'on sait qu'il est coupable? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Ben non, c'est pas une perte de temps, non. Non, chacun a le droit à une défense, et c'est... Cause perdue, cause pas perdue, ça change rien. Et bah c'est pareil. Même Juan Branco. Voilà, regarde Juan Branco. Juan Branco, il a une probabilité de chance d'être élu président de la République française égale à 0,00000000001%. Mais continue à se battre, hein. Il y croit dur comme fer. Il est convaincu d'avoir raison. Voilà. Bon, il viole des meufs aussi, c'est un peu compliqué. Bon. Disons qu'il met pas toutes les chances de son côté. Francis Lalanne aussi, il se bat. Alors, Francis Lalanne, il se bat, évidemment. Il a bien raison de se battre. Francis Lalanne, il a quand même un mérite, hein, les amis. On rigole. Mais Francis Lalanne, il a présenté sa candidature à plusieurs élections. Notamment des élections législatives. Alors, on se marre. N'empêche que le mec, il va au bout de la logique. Et il se mesure au suffrage des Français. À chaque fois, le résultat est sans appel, hein. On peut raisonnablement affirmer que Francis Lalanne ne rencontre pas le succès électoral qu'il souhaite. Mais au moins, il va jusqu'au bout de sa logique. Voilà. Il défend sa candidature. Bah, moi, j'ai du respect pour ce genre de mec. J'ai du respect, pas pour le, non, en l'occurrence, non, parce que Dieudonné, non merci, mais j'ai du respect pour la démarche qui consiste à, en démocratie, si tu penses un truc et que tu crois que tes idées sont les bonnes, bah, tu vas les défendre devant les gens. Voilà, c'est tout. Tu leur demandes de voter pour toi. Plutôt que de tenir un blog et de passer ta journée à gueuler contre tout le monde en disant que j'ai raison, tout le monde a tort, etc. Bon, et bah, tu vas défendre ta candidature avec ta tronche, ton nom, etc. Bah, voilà, moi je trouve ça respectable comme démarche. Alors que X existe. Oui, c'est ça. Alors que X existe. Pourquoi on parlait de ça? C'était quoi la question? Ah oui, où tu me demandais, pardon, il y a quelqu'un dans le chat qui demandait est-ce que ça sert à quelque chose de déposer une motion de censure quand on sait qu'elle va pas être votée? Bon, bah écoute, je crois t'avoir répondu. Sur à quoi ça sert de défendre son bout de gras, même si on sait qu'on va pas obtenir gain de cause au final. L'enjeu en vaut la chandelle, l'intérêt supérieur en veut la chandelle, donc on continue à se battre, quoi. Mais pour autant, je suis toujours en train de réfléchir à François Bayrou. Hein, je suis désolé, je suis en train de me cramer le cerveau parce que. Je n'arrive pas à voir un scénario dans lequel François Bayrou arrive à ne pas être censuré par l'Assemblée. J'essaye de faire entrer des carrés dans des ronds dans ma tête en me demandant qu'est-ce qui permet d'imaginer que François Bayrou soit pas censuré, quelle offre il peut faire, quelle promesse il peut faire. Même s'il propose un non-recours au 49-3. Ce que tu dis est intéressant. Vraiment, ce que tu dis est intéressant. Je me demande, j'ai hâte de voir l'interview de François Bayrou dans laquelle il annoncera qu'il n'aura pas recours au 49-3, qu'il mettra en place la proportionnelle. Ça, à mon avis, il peut s'engager à le faire. Est-ce que le projet de loi de finances peut ne jamais être voté par 49-3? Très bonne question. Non mais vraiment très bonne question que tu poses. Un mec qui vient me voir en me disant promis, j'utiliserai pas le 49-3, moi, ma seule réponse c'est bah ok, bon courage frère. Enfin, tu montreras comment tu arrives, hein, parce que je suis désolé. vu la configuration de l'Assemblée, 149-3. Déjà, 49-3, Michel Barnier a fait le test. Parfois, ça casse. Mais alors, 149-3. Déjà, pour une loi ordinaire, c'est compliqué. Mais alors, pour une loi budgétaire. Je sais pas, je continue à réfléchir, à me faire mal au cerveau. Va falloir qu'on interviewe François Bayrou sur Baxit, hein. Moi je vois que ça, hein. Je suis désolé, mais là j'ai trop de questions, hein. Moi, je peux, j'arrive plus à affirmer quoi que ce soit. Hein. Va falloir qu'on interviewe François Bayrou, ses ministres, hein, qui nous expliquent leurs méthodes, leurs projets, tout ça, tout ça. Hein. Bayrou, il peut pas récupérer le PS côté NFP. En échange de quoi? En fait, c'est ça la question. C'est en échange de quoi? Le PS a déclaré en début de semaine que si le Premier ministre n'était pas de gauche, les socialistes le censureraient. Je l'ai quand même pas inventé, ça. Je n'imagine pas le PS se battre pour rentrer dans le gouvernement de François Bayrou. LFI va censurer, je crois. Perspicace. Oui, c'est à peu près sûr. Oui. LFI va censurer, dès le premier jour. Ça, ils l'ont annoncé d'ailleurs, ils vont déposer une motion de censure. Ils avaient fait pareil pour Michel Barnier, donc voilà. Il n'y a pas de... y a pas de surprise de ce point de vue-là. Faure, il a même dit que tout PS qui rentrerait au gouvernement serait exclu. Ouais, j'ai entendu dire ça. Quand j'ai vu ça, j'avais envie de lui répondre, écoute Olivier, t'es gentil, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont quitté le PS depuis un bout de temps, tu vas pas pouvoir les exclure, ceux-là. Ils sont déjà en dehors. Donc voilà. Non, tu ne peux pas exclure Bernard Cazeneuve du Parti Socialiste, c'est pas possible, il est déjà plus dedans. Prévision de la durée de vie de Bayrou. C'est trop tôt. C'est trop tôt, les gars. C'est trop tôt. Je ne sais pas qui il y aura dans le gouvernement, déjà. Pardon, mes premières questions. Deuxième question, quelle est la feuille de route de ce gouvernement? Troisième question, quelle est la méthode de ce gouvernement? Et à l'issue de ça, alors éventuellement, on pourra commencer à analyser. Il a 73 ans, donc une durée de vie encore de 12 ou 13 ans en moyenne, je dirais. Non. C'est quoi une méthode de gouvernement? Eh ben c'est la manière, oui, c'est la méthode, c'est-à-dire c'est la manière avec laquelle tu entends gouverner. Est-ce que tu as une manière autoritaire où tu fais passer tes projets de loi à l'Assemblée sans accepter de discussion, de négociation, etc. Est-ce que tu tords le bras aux partenaires sociaux en prenant des décisions contre leur avis? Voilà, c'est ça la méthode. Si François Bayrou dit « Ma méthode, c'est le dialogue, je n'utiliserai pas le 49-3, nous travaillerons au Parlement, nous ferons un travail parlementaire et je m'appuierai sur les avancées des députés, etc. » Bon, très bien. Je Voir Macron se faire forcer la main par ses propres alliés, c'est satisfaisant quand même. Ouais, comme un revival de ce qui se passe au NFP, tu me diras. Est-ce que c'est vrai que Bayrou est Premier ministre? Il paraît que Bayrou est Premier ministre. Et je parle bien de François Bayrou. On pense au même. La légende raconte, il se dit sur Internet que Bayrou serait Premier ministre de tout ce qui est République française. Je ne sais pas trop si on doit le croire ou pas. Ça se trouve, c'est encore de l'enfumade. Est-ce qu'il y a des QAG mardi? Bah, il y aura des QAG mardi que s'il y a un gouvernement composé. Un gouvernement de plein exercice. Pronostic, il va tenir combien de temps à ton avis? Mais je n'ai pas de pronostic sur la durée de vie de François Bayrou parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans son gouvernement. Sur le fond, la forme, le casting, etc. Donc j'en sais rien, on verra. J'attends de voir, je suis comme vous. Je suis comme vous, j'attends de voir, je suis curieux. Doum, doum, doum. Je vais regarder un peu. Bon, il y a plein de... Évidemment, tous les journaux sortent leur nécro, là, sur...
Je ne sais pas du tout ce qui va se passer.
Waouh.
On n'arrête pas de te le dire, hein, d'accord.
C'était quoi? Ah, mais attends, c'est Libération qui...
Il faut être plus clair.
Il y a un live qui se lance. Putain, c'est le live Twitch de Libération qui se lance quand on est sur leur page... D'accord. Le PS refuse de participer au gouvernement mais laisse planer la menace de la censure. 9 jours après la chute du gouvernement Barnier, l'Élysée a annoncé ce vendredi 13 décembre la nomination du centriste à la tête de l'exécutif. Le patron du Modem est désormais chargé de composer une équipe susceptible d'échapper à la censure de l'Assemblée nationale. Bon courage, lui lance le streamer Jean Massier. Tac, tac, tac. Ursula von der Leyen félicite Bayrou pour sa nomination. Très bien. Le PS demande notamment à Bayrou de renoncer au 49-3 en échange d'une non-censure. Dans un communiqué partagé sur X par son premier secrétaire Olivier Faure, le Parti Socialiste a affirmé qu'il ne participerait pas au gouvernement du Premier ministre issu du Modem et a annoncé qu'il ne le censurerait pas si ce dernier s'engageait à ne pas faire l'usage de l'article 49 alinéa 3. Les communistes jugeront le nouveau Premier ministre sur pièce. Interrogé sur BFM TV ce vendredi, après la nomination de François Bayrou à Matignon, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, refuse l'idée d'une censure automatique. Les communistes jugeront le nouveau Premier ministre sur pièce, a-t-il déclaré. Mais avant de parler de non-censure, il faut que le Premier ministre nommé s'engage à ne pas appliquer le 49-3, a précisé Fabien Roussel dans un communiqué. Le Parti communiste français a jugé que cette nomination était un très mauvais signal envoyé au pays. En nommant un Premier ministre de son camp, Emmanuel Macron ne respecte pas, une nouvelle fois, le choix des urnes qui aurait dû le conduire à nommer un Premier ministre de gauche, issu de la coalition arrivée en tête. Fin de citation. Donc Fabien Roussel est exactement comme le PS. Pas de censure a priori, par contre on demande solennellement au Premier ministre de renoncer à l'article 49.3. Intéressant. Pas de censure automatique, annonce Patrick Kanner, interrogé sur Public Sénat. Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, a dit que le PS ne voterait pas automatiquement la censure et a priori contre François Bayrou et qu'ils entendraient ce que le Premier ministre avait à dire. Mais nous ne participerons pas à son gouvernement, a-t-il annoncé. Ok. Ok, ok, intéressant. La passation va être sympathique entre Barnier et Bayrou. Ouais, ça aura lieu à 17h. Roussel toujours plus proche du parti présidentiel que de la gauche. Hein? De toute façon, je ne sais pas ce que Bayrou veut dans son gouvernement. Je ne suis pas sûr que Bayrou le veut dans son gouvernement. Oui, non, je suis d'accord. Donc à la fille, ils sont tout seuls avec la censure. La censure, a priori, oui. La censure, a priori, LFI, il semblerait qu'il soit seul. Même le RN a dit, non, mais nous, on va pas censurer a priori, on va d'abord écouter ce que va nous dire François Bayrou et on jugera après. ELV, ils ont rien dit sur la censure. J'ai pas noté, non. ELV censurera. Mais ils censureront, ils voteront la censure a priori ou ils voteront la censure après le discours de politique générale? Tondelier a dit qu'il censurerait. Oui, ça j'ai bien compris, mais ça répond pas à ma question. Le discours de politique générale attendra la nomination du gouvernement ou avant. Le discours de politique générale attendra la nomination d'un gouvernement. Et puis je vous rappelle que c'est facultatif, hein, le discours de politique générale. C'est une tradition et c'est un usage qui est assez logique, donc c'est pour ça qu'on continue à le faire. Mais voilà. Est-ce que c'est une bonne stratégie de la part de la France Insoumise de vouloir censurer toutes les 10 secondes? Est-ce que ça les fait pas passer pour des imbéciles? En fait, ça les fait passer pour des imbéciles aux yeux des personnes dont ils se foutent complètement. Donc c'est pas grave. Enfin, LFI, ils jouent l'opinion publique. LFI, ils se mettent du côté de la colère des Français qui ne veulent pas entendre parler d'une continuité de la politique qui est menée. Donc, ils ont raison de censurer, évidemment, ils sont dans leur rôle. Il n'y a que LFI qui s'entête à bordéliser le pays au bord du gouffre. Enfin, si tu veux, hein, tu as le droit de détester LFI si tu veux, mais enfin, LFI, ils sont pas au pouvoir. Hein. Il y a un moment, LFI bordélise... Dans les limites de ce qui relève de leur compétence, oui, LFI bordélise. C'est pas grand-chose. Hein. Oh. Macron, en nommant son bras droit, joue au con aussi. Alors, peut-être qu'Emmanuel Macron, lui non plus, n'a pas très envie de séduire la France insoumise. Hein. Si vous êtes insoumis et que vous êtes déçu du choix de François Bayrou, gardez bien en tête que Macron cherche pas à vous séduire. Hein. Dans sa tête, c'est assez... De la même manière que je viens de vous dire sur la France Insoumise qu'ils en ont rien à foutre de passer pour des pitres aux yeux de gens dont ils se branlent complètement. Vraiment, ce que pensent les macronistes de ce que je fais, j'ai envie de te dire, je m'en fous, et j'ai raison de m'en foutre. Donc voilà. Je comprends pas trop l'intérêt du PS et du PCF de ne pas censurer direct le gouvernement. Peser dans la négo. Dans le rapport de force parlementaire qui s'ouvre, tu pèses beaucoup plus lourd si tu menaces d'en censurer, mais que tu mettras ta menace à exécution que si tu n'es pas satisfait, qu'en disant je menace d'entrée de jeu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais, encore une fois, LFI et le reste du Nouveau Front Populaire n'ont pas la même stratégie. C'est juste une question de stratégie, de positionnement. Qu'est-ce qui est le plus utile, le plus efficace Et ils sont pas d'accord là-dessus. Et c'est ni la première ni la dernière fois que la gauche est en désaccord là-dessus. Entre le PC et le PS à l'époque du programme commun, c'était à peu près quotidien ce genre de divergence. En censurant d'entrée de jeu, tu imposes à Macron. Tu imposes quoi à Macron? Qu'est-ce que tu gagnes? Le LFI bashing dans le chat. Non, c'est pas du LFI bashing, c'est une discussion animée sur les stratégies des acteurs à gauche. Ça fait un siècle et demi que ça existe, ces discussions. C'est pas du bashing. Tout le monde n'est pas d'accord. Effectivement, ça se voit dans le chat. Tout le monde n'est pas d'accord sur la meilleure stratégie à adopter. Encore une fois. Tu penses vraiment que le NFP doit adopter la même stratégie? Bah, ça peut être efficace, ça peut être utile. Mais moi, je pense surtout que c'est pas grave si tout le NFP n'a pas la même stratégie. Ce que disait Usul hier avec le côté good cop, bad cop, quoi. LFI, rien que le nom les condamne à vie à être un parti d'opposition marginalisé. Mais je suis au regret de t'annoncer que LFI n'est pas marginalisé. Parlementairement un peu, je te l'accorde, en termes de vote et d'opinion publique. Ça dépend des élections. LFI, ils font des bons scores à la présidentielle. Les autres élections, c'est plus compliqué. Mais c'est pas un parti marginalisé, c'est la principale composante du NFP, hein. Qu'allons-nous devenir sans haut commissaire au plan? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une... Je sais pas. Soixante 70 députés alors que nous avons offert des sièges, on est trop sympa. La mansuétude. Bravo, merci pour le cadeau d'ailleurs de ces sièges. C'est d'une générosité. Pas d'inquiétude, France Stratégie est là. Ouais. Ouais, exactement. Putain, j'essaie d'imaginer le discours de politique générale de François Bayrou. Honnêtement, j'y crois pas. Hein. Honnêtement, j'y crois pas. En fait, j'y crois pas à la capacité de François Bayrou de faire un truc différent de ce à quoi il nous a habitués les 40 dernières années. Enfin, on est dans la continuité du macronisme. Ça, c'est clair. Je ne m'attends pas un quart de seconde à la rupture. Je m'attends peut-être à être... être surpris par des prises de position originales sur la méthode. Le refus du 49-3, par exemple. La réunion de la conférence de consensus. Je pense que Bayrou, par rapport à Barnier, va acter la rupture avec le RN. Hein. Bon, de toute manière, il n'a même pas besoin de le faire, elle est déjà là, la rupture avec le RN, c'est le RN qui l'a décidé, donc merci, ciao, bye bye. Mais est-ce que ça va aller jusqu'à l'abolition du projet de loi sur l'immigration prévu par Bruno Retailleau? Est-ce que Bruno Retailleau va rester dans le gouvernement? Je ne sais pas. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on aura les noms du gouvernement? Non, ça on sait pas. Ça on sait pas, ça on sait pas. Bayrou, il est assez anti-droite, je crois. Oui, bien sûr. Ah oui, non, François Bayrou a des très mauvaises relations avec la droite depuis toujours. Précisément, il a toujours refusé de faire alliance avec la droite. Et d'ailleurs, dans le gouvernement Barnier, ça se passait pas bien hein, entre le MoDem et les Républicains. Bayrou est opposé au creusement de la dette. Est-ce qu'on va vers l'austérité? La question que je me pose, c'est quelle est la marge de manœuvre de Bayrou, en réalité. Oui, François Bayrou est plutôt un austéritaire. François Bayrou, il est favorable à la règle d'or. François Bayrou, il n'aime pas la dette. Il n'aime pas les déficits. C'est pas un grand fan de la politique de la demande. Bon. Mais est-ce qu'il a les moyens d'imposer ça à un Parlement 149-3, par exemple? Jean Bayrou, il n'est pas keynésien. Bayrou, il n'est pas keynésien. C'est compliqué parce que il y a eu la période du Covid, hein, avec l'endettement massif et commun des pays européens et tout. Bayrou, c'était pas le dernier à soutenir ça, donc. Bayrou, c'est pas un libéral hardcore, tendance Elon Musk, je sais pas quoi, Kasbarian et tout, non. Bayrou, c'est le premier à dire que la souveraineté passe par la réindustrialisation, par l'engagement et l'investissement dans des secteurs stratégiques d'avenir, et que si l'État doit y participer, il y participe, quoi. Quand est-ce que Macron va comprendre que la seule solution viable, c'est qu'il se barre? Déjà, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, il a juste à nommer un Premier ministre. Après, la question se déporte au Parlement, pas à l'Élysée. Et ensuite, solution viable, peut-être. Ça ferait peut-être plaisir sur le moment de ne plus avoir Emmanuel Macron. Mais on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'était quoi son boulot de haut-commissaire au plan? Le haut-commissariat au plan, c'est un truc qui existait pendant la guerre froide, hein, dans l'après-seconde guerre mondiale, qui était un truc très daté de l'époque où l'État planifiait l'économie, l'État était extrêmement interventionniste dans l'économie et décidait où est-ce qu'il fallait mettre de l'argent, où est-ce qu'il fallait investir, etc. Et puis il y avait des grandes priorités, le chemin de fer, l'aviation, l'industrie pétrochimique, le spatial, le nucléaire, etc. Donc ça, c'était De Gaulle qui décidait. Et puis le haut-commissariat au plan, il faisait des planifications. Donc en fait, le travail du haut-commissariat au plan, c'est de faire de la prospective. Ça a pas mal disparu après, plus tard, et notamment avec le tournant de la rigueur. Et c'est revenu à la mode assez récemment, l'idée de faire de la stratégie et de la planification de l'économie sur le long terme pour lutter contre le changement climatique, pour prévoir les investissements publics. Et pour des enjeux de souveraineté, tout simplement. Donc voilà, donc le haut commissaire au plan, c'est un espèce de ministre qui rend des rapports et fait des planifications économiques. Par exemple, suite au Covid, la France décide qu'elle doit être autonome en approvisionnement de médicaments à horizon des 30 prochaines années. Bon, bah le haut-commissaire au plan, il prend un agenda, il fait le bilan, il fait OK. Où est-ce qu'il faut qu'on soit dans 5 ans? Où est-ce qu'il faut qu'on soit dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision aujourd'hui qui nous permettront dans 5 ans de moins dépendre de tel approvisionnement? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour lever des fonds pour des industries pharmaceutiques performantes et possédées par des Français? Etc, 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 etc. Voilà. C'est ça la planification économique. C'est un métier, il y a des économistes qui font ça toute leur vie, hein, faire de la planification. On prévoit, on anticipe. Ou juste laisser les entreprises gérer, c'est une bonne idée, mais on adore le communisme en France. Ouais. Disons qu'entre l'anarcho-capitalisme et le bolchevisme autoritaire, il est possible qu'il existe un nuancier. Tu me l'accorderas ou pas? En termes de communisme, on est quand même relativement light en France. Comment planifier avec autant d'instabilité politique actuellement? Ça n'a pas de sens. Écoute, ça dépend parce que les camps politiques en présence aujourd'hui ne sont pas tous en désaccord fondamental sur tous les sujets. Je sais pas, moi, la relance du nucléaire, par exemple. La relance du nucléaire. Qui s'y oppose? Les insoumis et les écolos. C'est tout. Eh ben, je suis désolé de vous l'annoncer, mais... Ils sont quand même pas mal minoritaires. Donc, voilà. Moi, je suis pas très inquiet pour l'avenir de la filière nucléaire en France. Hein. Le reste du paysage politique est d'accord hein, pour soutenir ça. Pareil pour la réindustrialisation. Je n'ai jamais entendu un candidat à l'élection présidentielle expliquer qu'à l'avenir, il faut que la France ait moins d'industrie et qu'on achète des produits manufacturés venant d'Asie. Jamais entendu ça. Tous les partis, d'une manière ou d'une autre, disent il faut que la France produise elle-même, un enjeu de souveraineté et d'indépendance, dans la lutte contre le réchauffement climatique, etc., etc., etc. Donc, alors qu'en vrai, full import. Ouais, en ce moment. Mais je suis désolé, j'ai jamais vu un responsable politique français s'émouvoir de l'ouverture d'une usine en France. Jamais. Donc voilà, c'est en termes de stratégie de réindustrialisation. Après, on peut avoir des discussions et des débats politiques sur la méthode, sur le financement, sur l'autonomie, sur le rôle de l'État. Et ça, c'est très bien, c'est très noble. Mais ça, ça n'empêche pas la planification. Donc oui, oui, on planifie de ouf, hein. Ça consiste en quoi la proportionnelle vue par Bayrou? Alors, la proportionnelle de Bayrou, je ne sais pas laquelle c'est. La proportionnelle, pour te répondre, c'est un changement du mode de scrutin d'élection des députés. Aujourd'hui, on élit nos députés au scrutin majoritaire, uninominal à deux tours, par circonscription. Ok ? On découpe la France en 577 circonscriptions. Et dans chacune de ces circonscriptions, on organise une mini-élection, un peu sur le modèle de la présidentielle. Premier tour, second tour. Il y a des règles un peu différentes, mais peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle le scrutin majoritaire. Et bien, le projet de François Bayrou, mais qui est également un projet défendu par la gauche, le Nouveau Front Populaire et par le Rassemblement National de Marine Le Pen, c'est de changer de mode de scrutin pour passer à un scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel, c'est ce que tu connais puisque tu as voté aux élections européennes. Et tu te souviens peut-être, mais aux européennes, on ne vote pas pour un candidat, on vote pour une liste de candidats. C'est comme au municipal, au régional, on vote pour une liste de candidats, et ensuite les sièges sont répartis à la proportion du nombre de voix de chaque liste. Si ta liste a fait 20%, tu as 20% des sièges. Voilà. Qui sont pour ton parti. C'est ça la proportionnelle. Je ne rentre pas dans le détail, parce qu'on aura l'occasion de revenir... Parce qu'il existe des méthodes pour faire des proportionnels de manière un peu différente. Donc il n'y a plus vraiment d'ancrage territorial. Bah justement, c'est pour ça qu'il existe des possibilités de faire des proportionnels de certaines manières, notamment pour garantir le maintien d'une représentation territoriale. En 86, c'était une proportionnelle par département, je crois. Il y avait une élection départementalisée, et je ne sais plus comment ils avaient fait. Soit c'était une dose de proportionnelle, soit c'est une proportionnelle intégrale de mémoire. C'est une proportionnelle intégrale. C'est comme au sénatorial, mais sans les grands électeurs. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai entendu parler de prime majoritaire sur Backseat, c'est quoi? Alors, le problème d'une élection proportionnelle, traditionnellement, c'est qu'une élection proportionnelle, ça a tendance à favoriser la multiplication des partis politiques. Tu te retrouves avec des assemblées dans lesquelles il y a plein de petits partis. Chacun a une petite dizaine d'élus, comme ça, ils sont là, et puis ils sont côte à côte les uns les autres, et tu te retrouves avec un éclatement en termes de partis politiques de l'Assemblée nationale. Pour lutter contre ça, il existe une technique qui consiste à créer une carotte pour donner envie aux partis de se rassembler pour être plus forts. Ça s'appelle la prime majoritaire. La prime majoritaire, c'est très simple, tu dis le parti politique qui arrivera en tête décrochera automatiquement une prime de X% des sièges qui sera pour lui. Et tout l'intérêt, c'est que ça existe aux élections régionales, la prime majoritaire, tout l'intérêt, c'est que ça donne fortement envie au parti de l'obtenir, cette fucking prime. Parce que quand tu l'as, t'es bien. Pour le dire clairement, quand tu l'as, tu gouvernes, enfin tu diriges le conseil régional. Enfin, hein, voilà. Celui qui a la prime majorité, en général, il gouverne. Donc, tu peux créer une prime majoritaire, ce qui est une distorsion volontaire de la représentativité du truc. Et ça permet de favoriser le rapprochement des partis. À quoi ça sert de faire une proportionnelle si le résultat in fine ne peut pas donner une majorité? En fait, ça dépend de ce qu'on cherche. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, et je maintiendrai toujours, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système de vote ou type de scrutin. Et est-ce qu'on veut, est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut favoriser comme type d'assemblée, comme composition, comme structure, comme culture politique? En fonction de ça, on va adapter notre mode de scrutin pour coller à ça. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Donc si on cherche une plus juste représentation des options politiques des Français, on peut faire une proportionnelle intégrale. Si on cherche à garantir une stabilité institutionnelle et gouvernementale, c'est plutôt une bonne idée de faire un scrutin majoritaire par circonscription. On peut faire un mélange des deux. Donc voilà. Si le but c'est d'être représentative, la prime est contradictoire. La prime ne sert pas à améliorer la représentativité. Je vous ai dit que c'était l'inverse. La prime assume de distordre les résultats de l'élection de manière à favoriser la stabilité institutionnelle. Je vais vous le dire autrement. Est-ce que vous êtes satisfait, mesdames et messieurs, de la situation politique actuelle ? Au Parlement. Est-ce que ça vous plaît, la séquence qu'on vit depuis juin dernier, là ? Trois blocs à l'Assemblée nationale, des négociations, 49-3, gouvernement qui dure que 3 mois, etc. Si ça vous plaît, si vous trouvez ça chouette, je pense que vous devez soutenir effectivement un scrutin proportionnel. Un scrutin proportionnel favorise, surtout une proportionnelle intégrale, favorise ce type d'assemblée, assez divisée, mais mieux représentative des Français. Plutôt que l'époque, rappelez-vous, où il n'y avait que l'UMP et le PS. Je caricature à peine. Si par contre, vous trouvez que la séquence qu'on est en train de vivre est symptomatique d'une dérive avec des partis politiques qui négocient tout, la France des partis, le régime des partis, comme disait le général de Gaulle, peut-être que vous allez préférer, au contraire, une assemblée qui est plus stable, qui représente toujours la volonté des Français, mais qui favorise les alliances pour avoir plus de stabilité gouvernementale. Ça s'appelle la Ve République et le scrutin majoritaire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la rationalisation du parlementarisme, etc., mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut choisir ce qu'on préfère, ce qu'on souhaite, ce à quoi on veut arriver, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi une question de culture et de stratégie. Si vous pensez que chaque parti politique doit conserver son programme et ne rien négocier ni rien toucher, bon, effectivement, le scrutin majoritaire, c'est mieux. Comme ça, voilà, il y a un parti qui a le pouvoir, il a vraiment le pouvoir, il a une majorité absolue, merci, au revoir, il applique son programme. Rien que son programme, tout son programme. Effectivement. Le seul problème, c'est qu'il faut réussir à gagner les élections pour ça. Mais oui, ça existe. Si par contre, vous trouvez qu'il vaut mieux négocier, permettre aux partis politiques de faire des compromis, de réussir à obtenir le maximum de ce qu'ils peuvent dans leur programme, mais peut-être pas tout, alors oui, peut-être qu'un scrutin proportionnel est plutôt favorable à cette idée-là. Sixième République et tirage au sort du peuple à l'Assemblée nationale, problème réglé. absolument aucun problème n'a été réglé si tu tires au sort les députés. Je vois pas du tout. Parce que tu tires au sort, tu négocies pas ? Genre, il n'y aura pas de rapport de force dans cette assemblée ? Tout le monde pensera la même chose ? Bien sûr que non. Si on fait de la démocratie sans écouter l'opposition, c'est moyen. Alors, par ailleurs, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et j'ai toujours dit ça. Quand on écrit une constitution, quand on pense un régime politique, si on est un démocrate, on doit s'interroger sur les pouvoirs de l'opposition. Que peut faire l'opposition ? Quels sont les moyens que je donne à l'opposition pour s'opposer à moi ? En gardant en tête un truc très important, c'est que un jour viendra où ce sera à mon tour d'être dans l'opposition. Donc il ne s'agit pas tant de faire un cadeau à mon opposition aujourd'hui que de penser aussi à qu'est-ce que je voudrais pouvoir faire moi le jour où je serai dans l'opposition. Gardez toujours ça en tête. Hein. Vous serez un jour opposant, vous serez un jour au pouvoir. C'est pour ça que je vous dis toujours d'y aller mollo quand vous critiquez le 49-3. Je vous dis oui. Attention, le 49-3 c'est caca quand c'est utilisé par le camp d'en face. Le jour où t'as gagné les élections, disons que on peut y réfléchir, on peut y réfléchir. Et c'est normal, c'est normal. Ben, je pense que le 49-3 est nocif, peu importe qui l'utilise. Je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, j'ai toujours considéré qu'il y avait plusieurs types de 49-3, il y a plusieurs usages, contextes, raisons et rapports de force dans lesquels le 49-3 est utilisé et que ce n'est pas toujours un truc scandaleux et tout. Enfin, il y a des 49-3 brutaux, puis il y a des 49-3 qui sont assez logiques en fin de négociation et en fin de discussion. Voilà. Les armes institutionnelles, ouais, c'est ça, les armes institutionnelles, on les trouve toujours scandaleuses quand elles sont braquées contre nous, puis quand on les utilise à notre tour, on les trouve tout à fait légitimes. Je me souviens, il y avait un insoumis dans le chat qui avait dit « Le jour où on arrivera au pouvoir, on n'hésitera pas à utiliser le 49-3 pour abroger la réforme des retraites. On appellera ça le 49-3 populaire. » C'est joli, tu rajoutes le mot populaire derrière n'importe quoi, et ça devient tout à fait... légitime et souhaitable. Et au demeurant, il avait pas tort. Il avait pas tort du tout. C'est évidemment que c'est ce qui se passera le jour où ça arrivera. Pourquoi un 49-3 pour abroger une loi alors qu'un décret suffit ? Non, un décret ne peut pas abroger une loi. Pour abroger une loi, il faut voter une nouvelle loi. Ou adopter une nouvelle loi, plutôt. Un décret peut mettre en pause l'application de certaines lois dans certaines conditions, notamment les lois budgétaires, mais c'est encore une fois un peu subtil. Random insoumis dans le chat égale tous les insoumis, lol. Faut arrêter le bashing, Jean, un peu. J'ai rien bâché. Faut vraiment respirer. J'ai pris l'exemple d'un insoumis qui a parlé dans le chat. À aucun moment j'ai dit que c'était tous les insoumis. Je suis sûr que tu peux y arriver à faire la différence entre les deux. Et c'était même pas négatif. Et c'était même pas négatif ce que j'ai expliqué pourquoi il avait raison. Vraiment, hein, je... En cas de 6ème République faite par la France insoumise, on est d'accord que cet article n'existerait plus. J'en sais rien. La France insoumise annonce sa volonté d'abroger le 49-3. Fort bien, la France insoumise n'est pas toujours très précise dans ce qu'elle entend mettre dans la 6ème République, compte tenu du fait qu'elle préfère mettre en avant la méthode qui est celle de l'Assemblée constituante. C'est pratique l'Assemblée constituante, parce que ça permet de renvoyer vers les travaux d'une future Assemblée les questions qui piquent, qui peuvent se poser aujourd'hui. Donc je suis absolument infoutu de te dire ce que le jour où la France insoumise sera au pouvoir, elle écrira dans sa nouvelle constitution. Peut-être qu'il n'y aura pas de 49-3, mais peut-être qu'il y aura des mécanismes relativement similaires. C'est possible. Sauf que la constituante en question ne va pas forcément constituer la constitution que voudrait LFI. Bah, ça, c'est le risque. Dès lors que tu délègues le pouvoir d'écriture de la constitution à une assemblée élue pour ce faire, élue ou tirée au sort, en l'occurrence, c'est un peu, ça dépend, effectivement, tu t'exposes au risque que l'assemblée constituante soit composée à majorité de lepénistes qui écrivent effectivement une constitution assez éloignée des visées originelles du parti au pouvoir. Dès lors, la question que moi je me pose, c'est est-ce que la France insoumise ira jusqu'à, le jour où elle sera au pouvoir, hein, ira jusqu'à proposer au référendum l'adoption d'une constitution avec laquelle elle est en désaccord? Je sais pas. Je vais être très honnête, j'arrive pas à y croire. Hein. Donc, merci pour le sub, merci beaucoup. Non, mais la constituante, ça serait moitié citoyen, moitié élu. Ouais, j'ai vu ça, oui, je sais. D'ailleurs, lesquels sont les garde-fous de l'autre? Mais si tu gagnes les élections, ça veut dire que tu as une majorité absolue et donc pas besoin de 49-3, alors que si tu n'as qu'une majorité relative, tu devrais avoir à discuter avec les autres groupes pour gouverner et ne pas forcer les débats par le 49-3. Alors pourquoi le 49-3 et pas plutôt un état de fait que majorité relative devrait donner lieu à plus de discussions? Tu as parfaitement raison, mais attention, quand tu dis que quand tu gagnes les élections, ça veut dire que tu as une majorité absolue. Ah bon? Et le NFP va encore se plaindre. Et là, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, quand tu gagnes les élections, t'as pas forcément une majorité absolue. T'es peut-être forcé, contraint et forcé de devoir t'appuyer sur d'autres groupes que le tien. Et par ailleurs, quand tu as une majorité absolue, c'est toi-même qui te le dis, t'as une majorité absolue et donc pas besoin de 49-3. Ah bon? Faut le dire à Manuel Valls. Je crois qu'il est pas d'accord. Faut le dire à Dominique de Villepin. Je crois qu'il n'est pas d'accord. Michel Rocard, c'est particulier. Une majorité relative courte. Bref.
Mais non, justement. Historiquement, d'ailleurs, c'est une manière de voir le 49-3. Le 49-3, c'est un outil qui permet de lutter, enfin, qui permet de solder un conflit au sein de la majorité. Quand il y a des députés qui menacent de ne pas soutenir le gouvernement. C'est une manière de les mettre au pied du mur en leur donnant la possibilité, s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique, de censurer le gouvernement qu'ils sont censés soutenir. Exactement dans cette hypothèse-là, qu'a été utilisé le 49-3 pour la loi travail en 2016. C'est pas tout à fait comparable avec la loi Macron en 2014-2015, qui elle a été adoptée, ou 2013 d'ailleurs, je ne sais plus, qui elle a fait l'objet d'un 49-3 parce que tactiquement, les Républicains ont décidé de se retirer à la dernière minute de la négociation parce qu'il y avait les élections régionales qui approchaient et que Sarko ne voulait pas que la droite fasse un cadeau à la gauche en votant sa réforme. Donc ils ont fait une. Ils ont fait un 49-3, mais c'était un 49-3 qui était assez évident dans le sens où il y avait bel et bien une majorité pour soutenir ce texte à l'Assemblée. La preuve, les amendements avaient été votés, négociés. Enfin, donc, 49-3, c'était une forme de clarification en disant, en fait, vous pouvez pas dire que vous êtes contre ce texte, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Vous menacez de pas le voter, mais c'est pas vrai. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, le 49-3 ça n'existe pas, il y a des 49-3 qui sont utilisés pour des raisons différentes. Un 49-3 est inutile s'il y a une majorité. Ah ouais. Tant qu'il y a une majorité. Et ce que je viens de t'expliquer, c'est que précisément il y a des moments où on se demande si la majorité est toujours là. Et c'est à ça que sert le 49-3. Ça reste problématique de faire passer une loi sans majorité. Ouais, encore une fois, ça dépend du 49-3, ça dépend du contexte. Il y a certains 49-3 dans lesquels il y avait une majorité. Il y avait une majorité. C'est juste que pour des raisons tactiques, les députés ont menacé de ne pas voter. Est-ce que le 49-3 est aussi utilisé pour contrer une certaine stratégie de l'opposition qui propose 1000 amendements sur une loi? Le 49-3 n'est pas la meilleure arme pour lutter contre l'obstruction parlementaire. Ce dont tu parles, c'est l'obstruction parlementaire. La seule fois, à ma connaissance, où ça a été objectivement le souhait, c'était la réforme des retraites d'Édouard Philippe en 2020. Vous savez, elle a été interrompue par le Covid. Édouard Philippe a utilisé un 49-3 qui a mis fin à la discussion à l'Assemblée nationale. Rapidement, on était au moment du premier confinement. Bon, là, c'est à ma connaissance la seule fois qu'un Premier ministre a assumé d'utiliser le 49-3 pour empêcher l'opposition d'obstruer les débats avec des milliers et des milliers et des milliers d'amendements. Et là aussi, alors on peut en débattre, vous et moi. Édouard Philippe a dit en gros, mesdames et messieurs les députés, il y a bel et bien une majorité dans cet hémicycle pour voter cette loi. Le problème, c'est que là, on a des groupes d'opposition qui nous empêchent de travailler, qui font l'obstruction parlementaire. On a essayé jusqu'au bout de négocier, on s'arrête maintenant et on utilise le 49-3 pour forcer la réalité qui est de constater qu'il y a bel et bien une majorité. Gardez aussi ça en tête. L'obstruction parlementaire. Quels outils vous mettez dans votre constitution permettant au gouvernement et à la majorité de lutter contre l'obstruction, tout en garantissant le droit individuel d'amendement de l'opposition? Parce que ça aussi, c'est un truc qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le jour où vous serez au pouvoir, vous aurez une opposition, et vous aurez une opposition qui ne vous fera aucun cadeau. Et s'il faut obstruer, elle obstruera.
pourquoi on aurait une opposition, on est gentil. Oui. Ah non, puis alors vous verrez. Hein. Ouh là là, vous verrez. Vous verrez le jour où vous aurez une opposition, elle sera mais insupportable, démagogue, de mauvaise foi, pinailleuse, populiste, enfin tous les mots que vous détestez. Alors vraiment, votre opposition, vos opposants, ils iront faire le beau sur des plateaux télé pour vous tartiner la tronche de critiques, faire le plein de votes de la part de la France en colère. Ah, vous verrez, c'est... Pourquoi autant de viewers ? Il y a quoi d'intéressant ? C'est ton premier message sur le chat ? Bah bienvenue, écoute. Pour te répondre, il n'y a rien. Et, bon, vraiment, là, on est assez bas en termes de qualité de stream. C'est vraiment... la sincérité naïve du premier message. Bonjour, je débarque, je connais pas la chaîne, mais c'est intéressant, là, ce qui se passe. C'est bizarre, non ? Pourquoi vous êtes aussi nombreux ? Et ça vous plaît ? Mais genre premier degré ? Non, mais d'accord. Moi, je croyais connaître un peu Twitch, mais... On est quand même surpris souvent. Hein. Surpris souvent. Hein. Oh, ta gueule, toi. À froid, en vrai, on parle du sexe des anges, là. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Je te l'accorde. Écoute, c'est vrai. Je vous accorde que on avait commencé ce stream avec un sujet intéressant quand même, qui s'appelle François Bayrou. On est parti sur du François Bayrou quand même. Bon, on a un peu dérivé. Et là, on est en train de se poser la question de la limite à la rationalisation du parlementarisme dans une hypothétique 6ème République. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, on est parti loin. On est le deuxième plus gros stream de France. Ouais. On a dérivé un peu. Ouais. On a glissé. Clairement, on a glissé. Hein. J'ai raté la présentation historique de Bayrou. Oui, t'as raté, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Regardez le replay de ce stream où j'explique un peu qui est François Bayrou, d'où vient-il, quelle est sa carte d'identité politique. Voilà. Est-ce que tu vas suivre son investiture ? Écoute, c'est à 17h. De vous à moi, les copains, est-ce que c'est si intéressant que ça, les passations de pouvoir ? Enfin, je veux dire, on connaît. Hein, rappelez-vous, Attal Barnier. Attal Barnier, c'est rigolo, parce qu'ils ils sont quand même envoyés des piques discrètes. Mais là, Bayrou-Barnier... Bravo, cher monsieur, bon courage, vous avez fait du très bon boulot. Merci à vous, félicitations, vous êtes formidable et je vous souhaite le meilleur. Nope, go jouer avec le chat. Non, je vais laisser le chat dormir parce que je suis très content quand il dort, parce que moi je peux respirer 2 minutes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Bayrou risque fortement de se faire censurer ? Mais non, mais François Bayrou risque de se faire censurer simplement pour les mêmes raisons que Michel Barnier a été censuré. Je ne vois pas pourquoi François Bayrou incarnerait une rupture avec Michel Barnier qui a été censuré par l'extrême droite et le NFP. Donc, sauf si Bayrou nous annonce des trucs impressionnants, curieux, en termes de méthode, en termes de contenu, qui permettent effectivement à une partie du NFP de se dire « Ok, on va pas le censurer, en tout cas de prime abord », intéressant. Mais sans ça, je suis désolé, je vois pas pourquoi est-ce que François Bayrou aurait un sort différent de celui de Michel Barnier. Sa seule chance, c'est que le PS ne censure pas. Dans ce cas-là, il tiendrait. Non, on a regardé tout à l'heure, si le PS ne censure pas, il y a quand même censure. Hein. Et même les socialistes, j'ai du mal à imaginer que tous ne censureront pas, quoi. Actuellement, seule la France Insoumise censure. La France Insoumise a annoncé le dépôt d'une motion de censure, donc le vote également, bien entendu, dès le début, avant même que François Bayrou n'ait l'opportunité de faire un discours de politique générale et de présenter son gouvernement, ses lignes, sa méthode. Les autres groupes disent, pour l'instant, on ne censure pas a priori, on attend de voir ce que dit Bayrou avant de prendre la décision de savoir si on censure ou pas. Je sais pas. La France Insoumise fait juste un speedrun, mais au final, le résultat est le même. Écoute, ça va dépendre de ce que dit Bayrou, de la méthode qu'il propose, etc. etc. Je continue à dire que ça dépend de ça. Je sais pas, c'est curieux. Je suis circonspect, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que demain, à 16h, je suis à Montpellier. Les gens de Montpellier, vous êtes là ? Eh bien, demain, à 16h, rendez-vous à la faculté d'économie, où je vais faire une conférence, et après, je dédicacerai mon bouquin. Donc, n'hésitez pas à venir. Et les autres, je vous retrouve lundi. Ouais, on se retrouve lundi. Merci les copains d'avoir suivi mon stream d'annonce de François Bayrou quand même, jour historique. On va passer un bon week-end maintenant, c'est bon, on a un Premier ministre. Ah, ça fait plaisir quand même. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end, parce que du coup je serai à Montpellier, je rentre dimanche et je restream lundi. Revue d'actu lundi, pour faire le point sur la compo du gouvernement. Venez demain, les Montpelliérains. Hâte de vous voir. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. À tout bientôt. Ciao, ciao.